Bienvenue à tous sur le cours de F6KGL, avec un cours pas spécial, c'est de la réglementation toujours, mais c'est une partie de la réglementation où on va parler de technique. Donc ça semble un peu bizarre, mais voilà, donc... Ne soyez pas étonnés que nous parlions technique. Alors évidemment, tout ça, ce sont des bases. Toutes ces problématiques seront vues plus en détail quand on fera la partie technique du cours, parce qu'évidemment, il y a des tas de choses pour lesquelles on n'a pas encore vu. Et donc, on va les voir très 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 rapidement, là, très sommairement. Il y a des questions dans la partie réglementation sur ces sujets. Et il y aura une deuxième partie la semaine prochaine, puisqu'il y a quand même quelques sujets à voir. Et ce soir, on voit donc tout ce qui tourne autour de la puissance, des décibels, des gammes d'ondes et des antennes. Et on verra la semaine prochaine la suite du programme. Alors, je le rappelle, donc ce programme, alors ce chapitre, alors ça c'était avant 2012, quand il y avait on pouvait obtenir un certificat d'opérateur avec juste la partie réglementation. Et donc l'idée du législateur, c'était de dire, bon, ok, vous avez la réglementation, mais il faut au moins comprendre ce que l'on vous dit dans la réglementation. Donc pour cela, eh bien, je vais vous donner, vous poser quelques questions techniques en lien finalement avec la partie réglementation. Donc, ce n'est pas l'intégralité du programme de technique qu'on va voir, ce sont que des petits sujets. Voilà. Ça reste quand même toujours dans la partie réglementation, parce que par exemple, tout ce qui concerne les antennes, on va avoir très peu de questions sur les antennes dans la partie technique de l'examen. On va surtout les avoir donc dans cette partie de réglementation. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Ne soyez pas surpris d'avoir des questions techniques en réglementation, c'est normal. Et grosso modo, il y en a sur les 20 questions, il y en a entre 5 et 6. Donc ne soyez pas surpris de les avoir. Ne négligez pas cette partie-là, qui de toute façon, encore une fois, on va la revoir demain. Ce soir et la semaine prochaine. Les calculs demandés, il y a quelques calculs évidemment, mais en règle générale ils sont simples, normalement ils doivent pouvoir être effectués de tête. Alors bon, si je vous dis 2 x 20, ben voilà, vous devez savoir que ça fait 40, c'est pas des formules à apprendre, c'est juste des formules du style U égale RI. Ce sont vraiment des formules très simples et les calculs, vous allez voir, ils sont aussi très simples. Évidemment, vous pouvez utiliser une calculette. Alors, il y a eu visiblement un petit flottement puisque il y a quand même assez longtemps, en septembre 2013, donc ça va faire plus de 7 ans. Où il y a eu un candidat qui s'est vu refuser l'utilisation d'une calculette à l'épreuve de réglementation par l'examinateur. Je pense que, depuis, l'examinateur s'est fait recadrer par sa hiérarchie, et que donc, c'était un loupé de l'administration qui ne l'a jamais reconnu. Enfin, bon, voilà. Donc, si ça vous permet... De faire, euh, de vous rassurer, vous pouvez utiliser une calculette, mais normalement, on n'en a pas besoin. Mais surtout, très important, vous ne répondez, encore une fois, qu'aux questions dont vous êtes sûr de la réponse. Et ça, c'est d'autant plus vrai que dans cette partie-là, c'est des questions... voilà, si vous êtes un peu mal à l'aise avec la technique, ne commencez pas par répondre à ces questions-là. Intéressez-vous aux questions de réglementation pure et éventuellement, si, alors si c'est des questions simples, évidemment vous répondez, hein, mais si c'est une question un peu plus compliquée, peut-être avec des calculs, vous laissez tomber et surtout vous n'y répondez pas, parce que c'est très bête de perdre des points là-dedans. Et toutes les questions qui portent donc sur ce chapitre, on va les revoir plus tard, donc plutôt vers la fin du cours, donc en mai-juin. Et c'est généralement, alors ça forme trois familles de questions, et donc trois familles de questions, ça fait environ six questions. Voilà. Voilà, donc pour petit rappel, ça c'est le texte, puisque dans l'annexe 1 de l'arrêté du 21 septembre 2000, c'est là où il y a le programme de l'examen. Et donc ce programme de l'examen, dans le premier item, donc c'est le programme de l'épreuve de réglementation. Et donc dans ce programme, il y a tout ça qu'il y a à avoir. Il y a toute cette partie-là, donc tout ce qui est brouillage et protection, donc brouillage des équipements, ça on verra ça la semaine prochaine, hein. Brouillage des équipements, la cause des brouillages, puissance et énergie, on va le voir là ce soir, protection contre les brouillages, ça sera la semaine prochaine, les protections électriques, c'est aussi la semaine prochaine. Et enfin, deuxième point, c'est un chapitre qui va reprendre tout ce qui concerne les antennes et les lignes de transmission. Ligne de transmission, c'est le câble coaxial, pour faire simple. Et donc on a les types d'antennes qui sont au programme de l'examen, donc le doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptation, doublet avec trappe accordée, doublet replié, antenne verticale quart d'onde, antenne avec réflecteur et ou directeur, et antenne parabolique. Voilà, donc ça c'est les types d'antennes, les caractéristiques des antennes, tout ce qu'il y a à savoir autour de ces antennes-là, donc les impédances, polarisation, le gain par rapport au doublet, donc ça c'est les diagrammes de rayonnement, la puissance apparente rayonnée, la puissance isotrope rayonnée équivalente, la PIRE, le rapport avant-arrière et les diagrammes de rayonnement. Et enfin, tout ce qui est sur les lignes de transmission qu'on verra la semaine prochaine. Donc, tous ces items-là sont dans la partie réglementation. Mais dans le programme AREC, donc dans le programme de référence CEPT, ces deux chapitres-là sont en fait les chapitres 6, 9 et 10 de la partie technique du programme AREC. Donc finalement, l'administration française, elle a bousculé un peu l'ordre, mais c'est tout. On va reprendre les mêmes choses, mais elle a juste rebasculé en partie réglementation une partie du programme technique. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous resituer le contexte. Eh bien, on y va. Donc, Premier paragraphe, on va parler des puissances et des rapports de puissance. Et ces rapports de puissance, généralement, on les exprime non pas en rapport, c'est-à-dire multiplié par 20 ou divisé par 20, par exemple, mais on va l'exprimer plutôt sous forme de décibels. Ce sont les techniciens qui, généralement, parlent dans un amplificateur vont parler de décibels. Donc la puissance, c'est ce qui va, c'est l'issue de toute la chaîne d'amplificateurs successifs, et c'est ce que l'on applique en règle générale à l'antenne via une ligne de transmission. Ligne de transmission, donc c'est un câble coaxial par exemple. Et donc cette puissance d'émission, elle s'exprime en watts. Donc watts, c'est James Watt. Hein. On en reparlera quand on fera la partie technique. Et le symbole, c'est le W majuscule. Donc on peut écrire un watt 1 avec un W majuscule, ou un watt WATT, enfin 2T. Mais en tout cas, quand on écrit un watt en toutes lettres, donc WATT, on ne met pas de majuscule, puisque c'est juste l'unité, c'est pas le monsieur. Donc ça, c'est la puissance, la définition de la puissance, c'est ça. Alors on verra un peu plus cette notion de puissance quand on parlera de la puissance dans la partie technique, bien évidemment. Là, c'est juste, vous avez un cadre. Les amplificateurs, voilà la manière dont se représente un amplificateur. Donc c'est un triangle avec une entrée ici sur la base et la sortie ici sur la pointe du triangle. Hein, donc là, en fait, on voit dans quel sens fonctionne l'amplificateur. Il va fonctionner dans ce sens-là avec l'entrée ici, la sortie là. Évidemment, dans cet amplificateur, eh bien, on indique ici le rapport de puissance en décibels qu'apporte cet amplificateur. Voilà. Alors ce XDB là, on peut le mettre soit à l'intérieur ou juste à côté. Ça arrive au même. Voilà, on fait comme on veut. Mais cette représentation là sous forme de triangle, elle est très utilisée par les techniciens. En revanche, souvent dans les questions à NFR, on n'a pas un triangle, mais on a un rectangle. Mais pour autant, ça se lit de la même manière de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite, pardon. Donc l'entrée est toujours à gauche et la sortie est toujours à droite. Et donc, une fois qu'on a parlé de ces amplificateurs et de ce décibel là qu'on met ici au milieu, un décibel c'est quoi? C'est juste une unité qui permet d'exprimer un rapport entre deux grandeurs. Et ces deux grandeurs qui sont de même nature, c'est typiquement la puissance. Donc la puissance c'est un rapport, le décibel c'est un rapport de puissance, donc la puissance que vous avez en sortie, par rapport à la puissance que vous avez en entrée. Et donc ces décibels, chaque décibel, cette notion de décibel, ça exprime un rapport de grandeur. Ici, vous avez les 9 rapports de grandeur. Je vais dire ça qui m'énerve. Voilà. Ici, vous avez les 9 rapports de grandeur qui sont à connaître pour la partie réglementation. Ces rapports de grandeur, donc ici vous avez le gain en décibels, première ligne, et la deuxième ligne c'est le rapport de puissance. On va commencer déjà par celui du milieu. 0 dB. 0 dB ça veut dire que je n'ai aucun gain ni perte d'ailleurs. Donc 0 dB, ça veut dire que j'ai un rapport de puissance identique à l'entrée et à la sortie. Alors vous me direz à quoi ça sert. Et ça peut servir notamment à adapter les impédances. Voilà, donc ça peut être utile. Alors on verra les impédances, on va en parler un petit peu dans les antennes, mais on verra surtout ça dans la partie technique, parce que là je vous ai un petit peu dévoilé le truc. Mais voilà, quand on commence à parler d'impédance ou de changer des réactances ou des capacitances, ça va compliquer les choses. Voilà. Donc, pour le moment, on fait simple, je dirais, et on dit 0 dB, ça veut dire que la puissance de sortie est égale à la puissance d'entrée. Pour autant, le signal, il peut être légèrement modifié entre les deux. Mais la puissance reste la même. Si j'ai un gain de 3 dB, alors un gain, ça veut dire que j'ai une augmentation de la puissance. Hein ? Si j'ai un gain ici, parce que le décibel, ça exprime un gain, et le rapport de puissance, bah, c'est le coefficient multiplicateur ou diviseur. Et donc 3 décibels, ça va correspondre à une puissance multipliée par 2. Okay. 6 décibels, ça va correspondre à une puissance multipliée par 4. Alors, il n'est pas indiqué ici, mais le 9 décibels, ça va correspondre à une puissance multipliée par 8. Et donc, on voit qu'ici, on a un rapport de 0, 3, 6 et 9, éventuellement, mais c'est pas à connaître à l'examen. Alors qu'ici, puissance identique, en fait, c'est multiplié par 1, tout simplement. Ici, c'est multiplié par 2, multiplié par 4, et pour 9 dB, ça serait multiplié par 8. On voit ici qu'on a ce qu'on appelle une série arithmétique, donc à chaque fois, je rajoute 3. Hein. 0 plus 3 égale 3, 3 plus 3 égale 6, 6 plus 3 égale 9. Et ici, j'ai une série qui est géométrique. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, c'est multiplié. Donc là, c'est 1 multiplié par 2, ça fait 2, multiplié par 2, ça fait 4, et multiplié par 2, pour 9 dB, ça fait 8. Voilà. Donc le 9 dB n'est pas à connaître. En revanche, vous avez à connaître le 10 dB. Et 10 dB, c'est multiplié par 10. Alors quand je vous dis ça, en fait, on verra quand on fera la partie technique, 3 dB, c'est pas exactement multiplié par 10. Mais c'en est très 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 proche. En revanche, ce qui est certain, c'est que 10 dB, c'est pile poil multiplié par 10. Et de même, 20 dB, avec la même logique, hein, c'est-à-dire que là, on a la même logique, c'est-à-dire que si je fais 0 plus 10 et plus 10, donc j'ai multiplié par 10, là j'ai une série qui est donc arithmétique, et ma série est géométrique en bas, c'est-à-dire que c'est multiplié par 1, multiplié par 10, remultiplié par 10, ça me fait 100. Donc 20 dB, ça correspond à multiplié par 100. Et si je dis 30 dB, ben ça sera multiplié par 1000, etc., etc. Donc ça, c'est les 4 décibels, les 4 gains positifs à connaître pour l'examen. Donc 0 dB, 3, 6, 10 et 20, qui correspondent donc à multiplié par 2, multiplié par 4, multiplié par 10, multiplié par 100. Pour les gains négatifs, en fait, quand on dit un gain négatif, c'est faux, c'est une perte. Et quand on parle de perte, bah, par définition, la puissance en sortie est plus faible que la puissance d'entrée. Donc là, on va diviser. Et moins 3 dB, eh bien, on divise par 2. Autant multiplier par 2 quand on avait un gain de plus 3 dB, eh bien, on divise par 2 quand on a une perte de 3 dB ou un gain de moins 3 dB. Enfin, un gain de moins 3 dB, il faut être tordu pour exprimer ça de cette manière-là. On a en fait une perte de 3 dB. Un gain négatif, c'est une perte. Et même chose, 6 dB moins 6 dB correspond à un quart. Moins 10 dB, un dixième. Moins 20 dB, un centième. Moralité. De 9 rapports que vous avez à connaître, finalement, vous en avez plus que 4, parce que 0 dB multiplié par 1, ça va, c'est pas trop compliqué à se souvenir. En revanche, vous avez 3, 6, 10, 20, ça correspond à multiplier par 2, multiplier par 4, multiplier par 10, multiplier par 100. Et à l'examen de réglementation, vous n'avez que ça à savoir sur les décibels. Dans la partie technique, on verra pour essayer de peaufiner quand on a, je sais pas quoi, moi, 23 dB, savoir comment ça se calcule. Alors effectivement, il y a Patrick qui dit la jolie formule 10 logs de PS sur PE, mais ça, on la verra quand on fera la partie technique. C'est pas la peine de vous sortir votre calculette et de la faire, d'essayer de vous faire taper des tas de trucs. Voilà. Si vous tapez, si vous amusez à taper 10 logs de PS sur PE, donc 10 logs par exemple de 2, eh bien vous avez 10 logs de 2, oui, donc le rapport ici, vous allez trouver un tout petit peu moins que 3 décibels. Vous allez trouver 2,99. Donc on en est très proche. Hein. Donc voilà, ça ce sont les 9 rapports à connaître qui en fait se transforment finalement en réfléchissant un petit peu avec 4 gains et rapports de puissance à connaître. Alors, les décibels. Alors, décibels, en fait, c'est Monsieur Bell qui les a inventés. Monsieur Bell, au passage, c'est quand même celui qui a créé la Bell Telephone Company en 1877. Et donc, la Bell Company, c'est Bell Telephone Company, c'est le téléphone. Hein, tous les téléphones, les normes téléphoniques, évidemment maintenant avec la voix sur IP, c'est plus trop le cas. Mais voilà, le téléphone, le bon vieux téléphone 600 ohms, c'était le standard qu'avait défini Monsieur Bell, qui est donc un industriel américain qui a mis en place tout le système téléphonique aux États-Unis et qui l'a diffusé après en Europe. Donc voilà, 1847-1922. Alors pourquoi d'ailleurs on utilise le décibel? Parce qu'en fait, Monsieur Bell s'était aperçu, c'est son téléphone justement, que n'oubliez pas d'ailleurs que le téléphone au début, ben, ça a toujours été avec du fil. Donc, c'est pas de la radio, hein, c'est du filaire. Et donc Monsieur Bell avait remarqué que quand il y avait trop de longueur de fil entre deux combinés, eh bien, le correspondant à l'autre bout, il n'entendait plus rien, à partir d'une certaine longueur. Et que donc, il devait mettre un système d'amplification qui permettait que le correspondant continue à entendre ce que disait la personne à l'autre bout. Et donc, il a défini quel, en termes de rapport de puissance, parce qu'en fait, quand on a un fil très long, eh bien, le signal, au bout d'un moment, diminue, enfin, par des pertes dans le câble, et donc, il n'y a plus rien au bout d'un moment. Et donc, cette longueur de câble, en fait, elle n'est pas mesurée en mètres, elle va être mesurée en fonction de la puissance résiduelle qui reste dans le câble. Et donc, Monsieur Bell avait défini que lorsqu'on n'a plus qu'un millième de la puissance par rapport à ce qu'il y avait à l'origine, eh bien, il fallait mettre un amplificateur. Et donc, c'était surtout pour essayer de rationaliser un petit peu le truc. Ce rapport de 1 millième, ça a été traduit par 3 Bell, et les décibels, c'est des dixièmes de Bell. Donc quand on vous dit un rapport de 1000, ça veut dire que c'est 3 Bell et donc 30 décibels. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le 20 décibels qui était donc un centième. Et donc un millième, eh ben c'est 30 décibels. Voilà l'origine du mot décibel. Et à l'origine, c'était juste la puissance qui était divisée par 1000. Voilà. Et après, quand les techniciens se sont un petit peu emparé de cette notion de rapport de puissance calculé de cette manière-là, plutôt que de l'utiliser sous forme de gain en décibels et non pas en rapport de puissance. On verra quand on fera la partie technique de l'examen toute la facilité d'utiliser des décibels et non pas des rapports de puissance. Donc, rappel, un nombre de décibels positifs, ça indique un gain, et un nombre de décibels négatifs, ça indique une perte. Ce qui est important, c'est que les gains successifs s'additionnent. C'est-à-dire que si vous avez deux amplificateurs de, on va dire, 10 dB qui sont l'un derrière l'autre, on ne va pas faire 10 dB multiplié par 10 dB, qui ferait 100 dB, on va faire 10 dB plus 10 dB, qui fait 20 dB, et quand on repasse dans la partie, je vais revenir sur mon tableau, ici, si j'ai deux amplificateurs l'un derrière l'autre, là, 10 dB et un autre qui fait 10 dB, donc je multiplie par 10 le premier, par 10 encore le deuxième, ce qui fait que j'ai multiplié par 100. Et 10 plus 10, ça me fait 20 dB, ça multiplie par 100. Donc j'ai réussi à transformer une multiplication en addition. Et de même, quand j'ai des pertes, eh bien les pertes, elles se soustraient au gain. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que au lieu d'utiliser un système de multiplication et de division assez complexe et on est obligé d'utiliser la calculette, on va plutôt utiliser les décibels, et donc on va additionner les gains et soustraire les pertes. Et ça, de tête, c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc pourquoi on a réussi à transformer ces choses-là, c'est qu'en fait les décibels sont des logarithmes. Et on verra cette notion de logarithme, c'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais plus qui avait mis la formule là, des décibels avec les logarithmes, et donc on verra cette notion quand on fera la partie technique. Mais pour le moment, c'est pas la peine de vous casser la tête. On reviendra dessus après. Donc les décibels, ça permet de définir les gains des amplificateurs, mais pas que. Ça va aussi servir pour exprimer des niveaux relatifs par rapport à une référence connue. Exemple type, une antenne. Une antenne type de base, qui est par exemple le doublet ou l'antenne isotropique, dont on va parler juste après, ça va définir donc l'antenne de base, et votre antenne, si elle a du gain, ça voudra dire qu'elle concentre l'énergie dans une direction. Évidemment, le reste, à puissance équivalente, elle va concentrer l'énergie comme une lampe torche qui envoie son faisceau de lumière dans une direction et une seule, et qui n'éclaire pas du tout le reste. Donc ça, typiquement, c'est le gain de l'antenne. On a aussi, dans les antennes, le gain avant-arrière, c'est-à-dire quelle puissance arrive par l'arrière par rapport à ce qui arrive de l'avant. Donc c'est ce qui permet de définir, de décrire la directivité d'une antenne. Autre utilisation, on va aussi l'utiliser, enfin, tout au moins on l'avait aussi utilisé quand on avait parlé des rayonnements parasites, des rayonnements non essentiels. On avait défini ces rayonnements non essentiels par rapport à l'émission fondamentale. Et donc là, donc par exemple, pour mes antennes, on va dire l'antenne de référence, donc le doublet dBd ou dB iso, parce que c'est l'antenne isotropique. Donc ça, c'est des gains pour les antennes. Le gain avant-arrière, c'est en décibels, point barre. Mais par contre, pour les atténuations des rayonnements parasites, on va utiliser le dBc. C en anglais, c'est carrier. Et carrier, c'est l'émission fondamentale, la porteuse. Et donc, on va définir ces rayonnements non essentiels par rapport à la puissance d'émission, de l'émission fondamentale. Et donc, c'est pour ça qu'on les exprime aussi en décibels. Et puis enfin, on peut aussi avoir des décibels qui expriment une puissance. Et donc, typiquement, dans tous les textes de loi, on va parler partout, souvent en décibels watts. Alors, décibels watts, c'est décibels par rapport à un watt. Ou, pour des petites puissances, décibels M, donc dBm, par rapport à 1 milliwatt. Ou alors, vraiment pour les très 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 petites puissances, et généralement c'est des puissances qui arrivent en réception sur l'antenne, on va parler en dB mu, comme microwatt. Donc ce sont évidemment ce sont des puissances très faibles, qui généralement sont mises en jeu quand, en réception, c'est des puissances reçues par l'antenne et donc amenées au récepteur. Encore une fois, on verra toutes ces notions-là plus en détail quand on fera la partie technique. Mais voilà, donc c'est ce pourquoi aussi qu'on est obligé de passer par cette partie pour expliquer un peu ce que sont quand on vous parle de 50 décibels, de 50 dBc pour les rayonnements non essentiels. Il faut savoir un peu ce que ça veut dire. On ne vous demandera jamais de quantifier, c'est-à-dire de savoir quel est le rapport de puissance qui correspond à 50 dBc, mais au moins que vous sachiez de quoi on parle. Et encore une fois, tous les gains se transforment après en rapport de puissance, un rapport mathématique, multiplication ou division. Donc, quelques questions d'examen. Ici, je vous ai rappelé ici, je ne sais pas si c'est suffisamment lisible, la grille de transposition des gains en rapport de puissance. C'est peut-être pas très lisible, mais bon. Sur le PDF, le vrai PDF, je pense que c'est plus lisible que sur YouTube. Voilà. Parce que là, sur YouTube, je pense qu'on n'a pas suffisamment de définition. Donc, première question. Donc, on demande quel est le gain en décibels. On a la puissance ici en watts, en sortie et en entrée. Donc, on a 8 watts en sortie, 4 watts en entrée, ce qui veut dire qu'on a un rapport multiplié par 2, hein, 8 divisé par 4. Je ne sors pas ma calculette quand même, il ne faut pas exagérer. Et comme c'est un rapport de 2, donc de multiplier par 2, eh bien, multiplié par 2, ça correspond, c'est celui-là, multiplié par 2 correspond à 3 décibels. Voilà. Donc ça, c'est typiquement des questions posées à l'examen, qui ne doivent pas poser de problème, mais bon, voilà. Sachez qu'il y en a quand même quelques-unes. Autre question, alors posée de l'autre manière, c'est-à-dire qu'on a 20 watts ici en entrée. On a, alors c'est pas un amplificateur en l'occurrence, là c'est le piège. Ça, c'est un. Alors je pense que c'est comme circuit, mais en tout cas ça ramène 6 décibels de perte. Ça doit être un filtre, je suppose, mais sans en être certain. Et donc ça rapporte 6 décibels de perte, et donc on demande quelle est la puissance en sortie. Donc la puissance en sortie, moins 6 décibels, ça correspond à un rapport de 1 quart, puisque 6 décibels c'est un rapport de 4, donc moins 6 décibels c'est un rapport de 1 quart, donc les 20 watts que j'ai en entrée, je le divise par 4, donc 20 divisé par 5, je ne sors pas ma calculette, ça me fait 5 watts. Voilà. Alors, on peut aussi imaginer ici la puissance en sortie d'un amplificateur, un gain ici, et on demanderait donc la puissance d'entrée de l'amplificateur. Voilà. Donc, on peut l'avoir dans plein de sens. Hein. On peut l'avoir dans plein de sens. Voilà. Après. pense que c'est quand même des questions assez simples. En fait, il faut bien foutre ça dans la tête. 3 dB multiplié par 2, 6 dB multiplié par 4, 10 dB multiplié par 10 et 20 dB multiplié par 100. Voilà. Une fois que vous avez ça dans la tête, évidemment, dans l'autre sens, si c'est négatif, bah, c'est divisé au lieu de multiplier. Autre question, alors celle-là est très tordue, mais voilà. Et c'est de la littérature, donc c'est une question, donc encore une fois, je le répète, à la partie réglementation, elle ne dure que 15 minutes, donc 15 minutes pour 20 questions, ça veut dire que ça fait 45 secondes par question. 45 secondes, c'est très court. Donc surtout quand les questions sont longues et qu'il faut les relire des fois plusieurs fois pour bien comprendre de quoi on parle. Donc là, on a plusieurs données. Donc un émetteur délivre une puissance de 4 watts. La puissance des émissions non désirées par l'émetteur est atténuée de moins 26 dBc. Alors, quelle est la puissance de l'émetteur en décibels watts? En décibels watts, 4 watts. En fait, ce qu'on veut vous faire dire, c'est 4 watts, c'est 4 fois 1 watt. Voilà. Bon. Et 4 fois 1 watt, c'est donc, je transforme ce 4 en décibels, 4 en décibels, ici multiplié par 4, ça correspond à 6 dB. Okay. 6 dB, 6 dB, ça me donne, donc 4 watts va me donner 6 dB watts. Voilà. Alors c'est très tordu, j'en conviens, mais sauf que les techniciens vont plutôt que de définir une puissance ici en watts, ils vont la définir ici en dB watts. Donc en dB par rapport à un watt. Et quand on vous dit que la puissance des... donc ça c'est la première partie de la question, quelle est la puissance de l'émetteur, et quelle puissance sont les émissions non désirées, donc là c'est en watts, donc on vous dit que la puissance des émissions non désirées générées par l'émetteur est de moins 26 dBc. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de mes 6 dB watts, je retire 26 dB, puisque ma porteuse fait 6 dB watts. Et donc je retire 26 dB. Donc je fais 6 moins 26, ça me fait moins 20 dB. Et moins 20 dB, je reprends encore mon petit schéma, là, moins 20 dB, c'est 1 centième de watt. Donc la puissance des émissions non désirées de mon émetteur, c'est 1 centième de watt. Et vous remarquez que ce n'est que 26 dBc, alors qu'en réglementation, on est plutôt aux alentours de 50. Donc ce qui veut dire que, en termes de puissance des émissions non désirées, on est largement en dessous d'un centième de watt. Voilà, donc, et en règle générale, on est plutôt dans les microwatts, enfin dans les alentours de 50 microwatts. Donc c'est pas quand même pas grand-chose. Il y a intérêt à bien peaufiner ces émetteurs pour... Alors, d'où je sors mes 6 dB watts? Vous n'avez pas tout compris là. Mais 6 dB watts, c'est mes 4 watts. 4 watts, donc c'est 4 fois 1 watt, et mon 4 fois, 4 fois, c'est 6 dB. Donc quand on dit 6 dB watts, c'est 4 fois 1 watt. Et donc, c'est ici, mon fois 4, ici, mon 4 watts correspond à 6 dB watts. Tout simplement. Donc c'est peut-être un peu tordu tout ça, mais voilà. Alors ça, ce n'est pas des questions d'examen, plutôt moi je ne l'ai pas encore vu dans les questions d'examen, mais c'est bien pour vous montrer vous faire sentir ces histoires de des émissions non désirées et ces rapports de puissance à ce niveau-là. Ok ? Ça, on a pas, c'est la partie la plus compliquée, là. Je vous le dis tout de suite, c'est la partie la plus compliquée de ce soir. Le reste est un peu plus simple. On a une notion aussi à connaître, c'est la puissance crête, puisque à un moment on vous parle de puissance crête en sortie d'émetteur. Donc voilà, il faut peut-être la définir, cette puissance crête. Donc, je vous ai mis ici les différents types de modulation auxquels on a affaire. Vous avez deux formes de modulation. Vous avez des modulations dites d'amplitude, comme la M, modulation d'amplitude. Si la M est une vraie modulation d'amplitude, puisque c'est écrit dans son nom. En revanche, la BLU est aussi une modulation d'amplitude, c'est pas écrit dans son nom, mais comme c'est un dérivé de la M, la BLU, eh bien, elle va avoir exactement les mêmes caractéristiques. Et donc, quand on est modulé en amplitude, ce qui va nous intéresser, la puissance de sortie, c'est la puissance de la pointe de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est tout ce qui est en gris, là. Donc, c'est finalement, c'est ce que vous émettez, hein, qui varie en amplitude. C'est de la modulation d'amplitude. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est les pointes de cette amplitude. Ce n'est pas la moyenne, ce sont les pointes. Et même chose ici en BLU. Ce sont les pointes qui vont m'intéresser. Donc quand je suis en modulation d'amplitude, ce sont les pointes de l'enveloppe. En revanche, quand je suis en modulation angulaire, comme ici en FM, mon amplitude est toujours la même, ce qui bouche ma fréquence, et quand je suis en morse, qui est une modulation d'amplitude, ok, mais je suis en tout ou rien, donc soit j'émets, soit j'émets pas, et quand j'émets, j'émets avec ma puissance crête. Et donc, dans ce cas-là, ici, la puissance crête, elle est toujours la même. Elle est toujours la même, alors là ici j'aimais ou j'aimais pas, mais quand j'aimais, eh bien j'aimais ici ma puissance crête. Et quand je suis en FM, j'aimais toujours la même puissance. Ce qui va bouger, c'est la fréquence ou la phase quand je suis en modulation de phase. Voilà. Et donc ça, c'est ce trait rouge là. C'est la puissance de pointe de l'enveloppe. En anglais, on appelle ça la power peak envelope, ou peak ou l'enveloppe. Donc ça va être l'inverse. Peak envelope power. Voilà, donc c'est la même, et en français, puissance de pointe de l'enveloppe. Voilà, donc il y a eu des questions, il y a très longtemps, mais j'en ai pas revu récemment. Donc je pense que ça a été retiré de la base de données des questions. Le rendement, même chose, j'ai vu des questions il y a très longtemps, j'en ai pas revu, mais le rendement fait partie est au programme de l'examen de réglementation. Le rendement, c'est quoi? C'est ce qui détermine la qualité, alors la représentation des modulations sont en fait des watts. Alors, en fait, quand on parle de la représentation, là, à partir du moment où c'est une tension ou de l'intensité, et que l'on a l'impédance, on va avoir la puissance. La puissance, vous n'avez jamais à avoir un instrument de mesure qui mesure la puissance. La puissance est toujours obtenue par calcul. Vous n'avez jamais... Il n'y a aucun instrument de mesure qui mesure la puissance. Quand on vous dit un wattmètre, c'est soit un ampèremètre ou un voltmètre, mais il ne sait pas faire autre chose. Donc, typiquement, ce type de représentation, c'est plutôt des tensions. Et comme on a, comme on connaît l'impédance du signal de sortie, généralement c'est 50 ohms, quand on connaît la tension, ben, automatiquement, on va connaître la puissance. Mais ça, on transforme. On verra ça quand on fera la partie technique. Au début de la partie technique, donc si vous êtes... on verra ça, je pense, en janvier. Voilà. Donc, voilà. On verra ça très rapidement. Mais encore une fois, cette notion de puissance, là, c'est finalement, ce sont des tensions qu'on a ici. Donc, le rendement. Le rendement, ça détermine la qualité du transfert de puissance. Le transfert de puissance, c'est quoi? C'est le rapport entre la puissance qui va être consommée par l'appareil par rapport à la puissance qui est restituée et donc ou émise comme on veut. Et donc ce rendement, c'est la puissance utile ou émise ou voilà, tout ce que vous voulez, ce qui est utile, divisé par la puissance consommée. Alors, ça semble bête comme ça, mais enfin bon, il y a eu des questions, typiquement une question comme celle-là, elle est très ancienne, je crois qu'elle est peut-être même du Minitel, donc c'est pour vous dire que c'est assez ancien, mais elle a été posée, et c'était des questions qui me semblaient assez simples. Donc un émetteur consomme 100 watts. Ailleurs, il y a Cyril qui dit « Mets tes doigts dans la prise et tu verras la puissance ». Eh ben non, tu verras pas la puissance, tu verras l'intensité. Tu verras l'intensité, parce que la tension, on s'en fout. Quand on met les doigts dans la prise, ce qui est important, alors évidemment c'est la tension, mais c'est surtout c'est l'intensité derrière qui fait des dégâts, soit dans les muscles, le cœur, la peau, etc. C'est l'intensité et pas la tension. en aucun cas la puissance. Donc un émetteur qui consomme 100 watts, donc ça c'est la puissance consommée, c'est-à-dire, voilà, monsieur EDF me fournit 100 watts pour faire marcher mon émetteur. Hein, c'est le compteur, il va tourner, et le petit Linky, il va m'indiquer que j'ai consommé 100 watts. Pour autant, la puissance de sortie, je vais utiliser la puissance de sortie, elle va être de 60 watts. Entre parenthèses, c'est un super rendement, ça. Enfin, un rendement comme ça, faut acheter tout de suite ce genre de matériel, parce que c'est assez rare d'avoir un aussi bon rendement. Alors, les valeurs mini-maxi des rendements, il n'y a pas de minimum, parce qu'il suffit que l'émetteur il soit en veille, il va consommer un petit peu, ne serait-ce que la petite lumière pour afficher qu'il y a derrière le galvanomètre. Pour autant, il ne sort rien, donc on va avoir un rendement de 0%. Le rendement maxi, allez, on va dire 30-40% sur un émetteur classique. Hein. Alors, sauf pour les émetteurs professionnels de grande puissance, où là, effectivement, on va avoir des rendements quand même meilleurs, parce que sinon, ça coûte très cher. Et puis, le problème, après, c'est qu'il faut évacuer la chaleur. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, mon rendement, on sent bien, c'est quelque chose de simple. Donc, 60 watts en sortie et donc 100 watts en entrée. Donc, je fais 60 divisé par 100. Comme c'est un pourcentage, je multiplie par 100. Et donc, ça me donne 60%. Hein, 60 divisé par 100, ça me donne 0,6. Et donc 0,6, je le multiplie par 100 pour avoir des pourcents. Ah, il y a 2 fois 100 que c'est un petit peu, peut-être, j'aurais dû utiliser deux chiffres différents parce que ça peut perturber la lecture, mais le premier multiplié par 100, c'est pour obtenir des pourcents, et le deuxième divisé par 100, là, c'est ma puissance consommée. Et donc, mon rendement est de 60%. Et donc, 60%, c'est la puissance qui est réellement émise. Ce qui veut dire que pour le reste, c'est-à-dire les 40% qui restent, ça dégage 40 watts qui sont donc perdus en chaleur. Parce qu'en fait, la puissance où elle part en chaleur, ou alors elle peut partir aussi en énergie mécanique, typiquement des vibrations. Quand vous voyez un transfo qui vibre, c'est qu'en fait il y a une partie de l'énergie qui part en vibration. Alors il y a des formules qui permettent de passer de l'énergie mécanique à l'énergie calorifique. On peut aussi avoir de l'énergie chimique, par exemple de l'électrolyse. Ça bouffe de la puissance. Chez nous, dans nos installations, c'est essentiellement de la chaleur. On a très peu de mécanique et très peu de chimique. Alors, 0,6, c'est un coefficient. Une très bonne question de Nicolas. 0,6, c'est un coefficient et 60%, c'est un taux. Quand on parle de taux, il y a souvent pour cent, ça peut être aussi en pour mille, ou en ppm, par million. Et donc, le 60%, c'est un taux. Et nous, dans toutes nos applications, on est soit en pour cent ou en ppm. En ppm, c'est assez rarement, en fait. Mais on est plutôt en pour cent. Et le coefficient, c'est 0,6. On en arrive au deuxième paragraphe où on va parler des antennes. Mais déjà, avant de parler des antennes, il faudrait au moins revenir sur quelques notions et notamment de longueur d'onde. Parce que dès qu'on va parler d'antenne, on va parler de longueur d'onde automatiquement. Donc la longueur d'onde, c'est donc ce signe-là, la lettre L minuscule grecque, qui s'appelle un lambda. Donc faut savoir la reconnaître. Elle est toujours donnée en mètres, la longueur d'onde est toujours, enfin, l'unité de base, c'est le mètre. Et c'est la distance parcourue dans le vide, ou dans l'air, mais la vitesse de propagation des ondes dans le vide ou dans l'air, c'est la même. Ou tout au moins, il y a un tout petit chouille de différence, mais tellement ridicule qu'on dit toujours la vitesse de propagation dans le vide ou dans l'air est la même. Et donc, cette distance parcourue dans l'air par l'onde, pour qu'elle fasse pour qu'il y ait une période entre les deux, qui permet de mesurer la distance. Donc typiquement, ça, c'est la modélisation d'une goutte d'eau, c'est plus parlant à chaque fois avec la goutte d'eau qui tombe et qui fait autour d'elle des ronds concentriques qui s'éloignent. Et donc, la longueur d'onde ici, donc la longueur de l'onde de l'eau, c'est la différence ici de longueur entre les deux bords de mes petites vaguelettes. Et cette distance-là, elle ne bouge pas, c'est-à-dire que les cercles concentriques grossissent, 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 et pour autant, comme la vitesse de propagation de ma vague est la même, eh bien, cette distance-là est toujours la même. Et pour les ondes radioélectriques, ça va marcher de la même manière. Et donc, ce que c'est qu'une longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est qu'on regarde lorsque l'onde se propage, et on regarde à quelle distance elle a repris sa valeur, sa dernière valeur. La valeur précédente. Voilà. Donc ça, c'est la longueur d'onde et la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois qu'on va avoir cette vaguelette-là qui bouge par seconde. Alors évidemment, dans le cas de ma goutte d'eau, voilà, si on en a deux par seconde, c'est vraiment le bout du monde. Mais quand on est dans le monde de la radio, là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Ça va tellement vite que on va, pour 1 kHz, donc on va avoir 1000 Hz, donc on va avoir 1000 oscillations de ce type-là pendant une seconde, à 1000 Hz seulement. À 1 méga, on l'aura 1 million de fois, donc 1000 kHz ou 1 million de Hz. Et à 1 GHz, on l'aura 1 milliard de fois. Donc, quand on regarde ici la vitesse de propagation des ondes, donc au bout ici d'une seconde, mon onde aura fait 300 000 km, donc il y a intérêt à courir vite pour mesurer, et ma longueur d'onde là, eh bien c'est la longueur, la distance qu'aura parcouru mon onde pour faire une période complète, ou un cycle. Enfin, ça s'appelle une période ou un cycle. Et ça, c'est donc ça, c'est ce qu'on appelle une sinusoïde. Ok ? Et donc, il y a un rapport entre longueur d'onde et fréquence. Et ce qui met en rapport longueur d'onde et fréquence, bah, c'est la vitesse de propagation des ondes. Et cette vitesse de propagation des ondes, bah, c'est 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière. Alors, quand on dit 300 000 km par seconde, en fait, c'est 299 800 et des bananes. Mais c'est tellement proche que finalement tout le monde, y compris les scientifiques, utilise 300 000 km par seconde. C'est tellement simple. Et donc, on a un rapport, enfin, on a une formule qui permet de transformer la fréquence en longueur d'onde ou la longueur d'onde en fréquence. Et cette formule-là, elle va marcher à partir de triangles. Alors, les triangles, c'est le premier que je vous présente. Et vous allez voir que dans la suite du cours, et notamment dans la partie technique, on va utiliser beaucoup cette méthode-là, que j'aime bien parce qu'elle est très simple, visuelle. Quand vous avez à transformer une longueur d'onde en fréquence, donc je masque ici, alors là non, je ne peux pas masquer, puisque avec ma souris, là c'est difficile, mais voilà, je masque ici longueur d'onde, donc lambda, et il me reste donc 300 en haut, fréquence en bas. Et quand je vois dans un triangle deux valeurs l'une sur l'autre, je sais qu'il faut que je divise celle du haut par celle du bas. Et donc là, mon triangle là, eh bien, je vais diviser pour obtenir ma longueur d'onde en mètres. Il faut que je divise 300 par ma fréquence, et ma fréquence, je dois l'avoir en mégahertz. Inversement, si je veux calculer ma longueur d'onde à partir de ma fréquence à partir de la longueur d'onde, eh bien, encore une fois, ma longueur d'onde doit être en mètres. Je fais 300 divisé par la longueur d'onde et ça me donne ma fréquence en mégahertz. Voilà. Ce sont les deux formules ici que je vous ai mis là. Et ça, vous avez ça en tête. Alors, c'est très pratique ça parce que ça va vous permettre de à peu près cerner dans quelle longueur d'onde on va agir, donc avoir une idée un peu de la forme de l'antenne, peut-être, fonction de la fréquence. En fait, la forme de l'antenne, elle est plus liée à la longueur d'onde qu'à la fréquence. Donc, question simple, quelle est la longueur d'onde de la fréquence 150 mégas? Donc je fais 300 divisé par 150. Ça c'est très compliqué. Je sors ma calcul tout de suite. Et ça me donne 2. Ou alors, autre question, quelle fréquence correspond à la longueur d'onde de 10 mètres. Donc je fais 300 divisé par 10. Vous remarquez qu'à chaque fois, c'est 300 divisé par. Et là, évidemment, quand on me donne une longueur d'onde, ben, la réponse est en la fréquence en mégahertz. Et donc, ça me fait 30 mégahertz. Donc ça, ça va vous permettre, notamment, quand des questions sur les bandes de fréquences, de transformer, par exemple, une question, quel est le statut de la bande de 40 mètres. Donc 40 mètres, vous ne savez plus quelle fréquence c'est. Vous sortez votre calculette, vous faites 300 divisé par 40, ça fait 7,5 MHz. Évidemment, 7,5 MHz, ce n'est pas une bande radioamateur, mais il y en a une qui est juste à côté, qui fait de 7 à 7,5. Parce que quand on dit bande des 40 mètres, c'était pour simplifier. En fait, elle est plutôt dans les 42 mètres. Et si on vous parle de la bande des 42 mètres, il n'y a personne qui sait ce que c'est. Alors que quand on vous parle de la bande des 40 mètres, tout le monde sait ce que c'est. Enfin, voilà. Donc voilà, et ça vous permet comme ça, facilement, de retrouver une bande de fréquence à partir de la longueur d'onde. Puisqu'on en est là, on va parler des gammes d'ondes. Alors les gammes d'ondes, c'est aussi au programme de la partie technique, hein, pas complètement. Ces gammes d'ondes, je rappelle quand même, c'est ma fameuse déclaration PAR, la puissance apparente rayonnée, que je dois faire, notamment lors de ma demande d'indicatif. Je suis obligé de dire à la NFR quelle puissance PAR je vais utiliser selon les quatre gammes d'ondes qui sont prévues dans le superbe document qu'on va vous demander de remplir. Donc, ces quatre gammes d'ondes, elles sont là. HF, VHF, UHF et SHF. Mais il y a aussi d'autres gammes d'ondes qui sont avant et après. Avant VLF, on n'a pas de bande radioamateur, parce que VLF, ce sont les bandes dont la fréquence est inférieure à 30 kHz. Autant dire qu'il n'y a pas grand monde dessus. Ainsi, il y a les sous-marins, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de radioamateur. Et pour décoder ce genre de signaux, c'est pas très évident, parce que la bande passante est très très étroite, et donc ils sont à très faible vitesse. On verra pourquoi quand on parlera alors, une possibilité de dézoomer la page pour avoir le bas. Eh bien non, ça me coince aussi, c'est mon logiciel d'encodage qui rogne le bas de la page. Alors j'essaye à chaque fois dans mes PDF de pas utiliser le bas de la page, mais des fois je rate. Voilà, donc désolé, j'ai pas de solution. Les gammes d'ondes sont à connaître. Ce qu'il faut connaître, c'est la gamme. Donc, alors ça, c'est un terme anglais. Donc quand on dit VLF, c'est des very low frequencies. Low frequencies, medium frequencies, high frequencies, very high frequencies, ultra high frequencies, super high frequencies, extra high frequencies. Donc ça, c'est des gammes d'ondes en anglais. Il y a des traductions en français, mais elles sont absolument pas utilisées. Enfin, les seules qui étaient utilisées il y a très longtemps, c'était les ondes courtes. Les ondes courtes, ce sont les high frequencies en anglais. Voilà. Grandes ondes ici, low frequencies, et medium frequencies, les petites ondes. Donc ce sont les trois termes là qui ont été usités en anglais, enfin en français, et qui sont maintenant utilisés partout en anglais. Alors pourquoi on est en 4 tiers? Eh bien parce que quand je fais le cours au Radio Club, ça me permet comme ça de voir ce qui se passe sur le chat. Parce que si je le mets en 16 neuvième, ben, j'ai plus la place pour afficher le chat. Et donc j'arrive plus à suivre vos commentaires. Donc voilà pourquoi je le passe en 4 tiers et non pas en 16 neuvième. Donc, vous avez les gammes d'ondes ici en anglais. Alors, les articles dans Radio Ref, malheureusement, si vous n'êtes pas abonné à Radio Ref, eh bien, vous n'y avez pas accès. Donc, je sens que je vais les retirer, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui sont quand même assez anciens. Mais voilà, c'est si vous avez la possibilité de récupérer des vieux Radio Ref, c'était des articles qu'on avait publiés il y a une dizaine d'années à peu près. Donc voilà, ça peut être intéressant. Il y a d'autres, ça donne d'autres, une autre vision de la chose. Donc pour revenir à nos gammes d'ondes, les gammes d'ondes ici en anglais, ici. Comment appelle-t-on ces ondes? Donc ça, c'est un adjectif numérique en français qui indique finalement la longueur. La longueur de quoi? Eh ben, la longueur de l'onde. Donc on va commencer ici par les millimètres. Et les ondes millimétriques, elles commencent à 1 mm et elles finissent à 10 mm ou 1 cm, comme vous voulez. Et donc, il suffit de traduire 1 mm et 10 mm, de prendre votre superbe formule que vous avez vue tout à l'heure, 300 divisé par la longueur d'onde. Évidemment, c'est une longueur d'onde en millimètres. Et donc, il faut la traduire en mètres. Et la fréquence que va vous donner la belle formule, elle est en mégahertz. Donc il faudra la traduire ici en gigahertz, mais vous voyez que vous pouvez traduire la plage de fréquence avec la longueur d'onde. Et cette longueur d'onde-là, donc les ondes millimétriques, commencent à 1 mm, finissent à 10 mm, ou 1 cm. De même, les centimétriques, ça commence à 1 cm, et ça finit à 10 cm. Et ça va de 3 à 30 gigahertz. Décimétrique, etc., etc. Donc, on a l'intégralité. Alors, il y a des questions, elles peuvent se poser dans un peu dans n'importe quel sens. On va vous demander comment appelle-t-on les ondes de 100 mètres à 1 km. Et donc, il faut répondre hectométrique. Ou quelle est la gamme d'ondes? Et à ce moment-là, c'est MF, Medium Frequencies. Alors, il y a des gens qui sont gentils qui me disent qu'il faut mettre sur un deuxième écran. Alors, vous m'achetez un deuxième vidéoprojecteur pour le Radio Club, ainsi qu'un deuxième écran. Un écran déroulant. Voilà. Ça sera... voilà, petit cadeau de Noël. Mais je vais avoir en plus du mal à caser un deuxième écran déroulant dans le Radio Club. Voilà. Il y en a plein qui ont des idées comme ça. plage de fréquence, donc voilà, on peut avoir un mix de toutes ces questions. Alors, c'est des questions qui sont assez, elles tombent assez souvent, voilà. Elles tombent assez souvent et voilà, faut s'y préparer. Et avoir le réflexe de savoir où on est. La plupart des questions vont tourner autour comment appelle-t-on les ondes décamétriques, par exemple. Et donc, à ce moment-là, il faut répondre à chef. Aussi, on a la plage de fréquence, assez peu les longueurs d'onde. Hein, c'est surtout sur ces trois critères qui permettent de définir les gammes d'ondes. Donc une fois qu'on a vu tout ça, eh bien on va passer maintenant aux antennes. Et pour la partie réglementation, on a quatre antennes, tout au moins. Il y en a plus dans le texte, mais concrètement, on n'a que les questions ne sont posées que sur quatre antennes. Ces quatre antennes, ce sont lesquelles? C'est le demi-onde, le doublet demi-onde, qu'on appelle aussi le dipôle, le doublet demi-onde replié, qu'on appelle aussi le trombone, et l'antenne verticale quart d'onde, qu'on appelle aussi le ground plane, donc le plan de sol en anglais, et les antennes directives, qu'on appelle aussi antenne Yagi, ou BIM, qui veut dire directive en anglais. Le programme cite aussi l'antenne parabolique, qui, entre parenthèses, n'est pas une antenne, puisque c'est le réflecteur, on va en parler juste après, d'ici la fin du cours, le doublet attrape et le doublet alimenté à une extrémité. Mais, à ma connaissance, à part pour l'antenne parabolique, où j'ai vu quelques questions, mais vraiment très limitées, je n'ai jamais vu de questions, tout au moins tordues sur ces types d'antennes. En revanche, pour ces quatre antennes-là, sur lesquelles il y a des questions, il faut connaître systématiquement sa longueur théorique, son impédance, ses spécificités de fonctionnement et son diagramme de rayonnement. La partie répartition tension-intensité le long du brin rayonnant, ça c'est plus de la technique et c'est pas au programme de réglementation puisque c'est écrit vraiment là, c'est écrit noir sur blanc dans la partie technique de l'examen. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de questions sur la répartition tension-intensité le long d'un brin rayonnant dans la partie réglementation. Alors, on va voir en détail toutes ces antennes. Paniquez pas. Première antenne, le doublet demi-onde. Ça, c'est l'antenne de base. L'antenne de base, c'est ce doublet demi-onde qu'on appelle aussi le dipôle. Le doublet demi-onde, donc, c'est toujours alimenté au milieu. C'est-à-dire qu'on va avoir... Alors, son nom, c'est doublet demi-onde. Donc, on peut imaginer que la longueur d'onde, ça va être une demi-onde, justement. Coup de chance, ça marche. C'est-à-dire que là, ici, la longueur physique de l'antenne, ça va être lambda sur 2. Donc, concrètement, pour le 40 mètres, l'antenne, ici, va mesurer 20 mètres de long. Et elle va être constituée, concrètement, de deux fils de 10 mètres chacun, puisque c'est alimenté ici, en son milieu. Donc, là, ça c'est l'antenne doublet demi-onde, le dipôle. Alors là, je vous ai mis ici un dipôle 40 mètres, hein, parce qu'évidemment, quand vous recevez ça dans une belle boîte, les fils ici, ça se trouve même, c'est même peut-être une 80 mètres. Donc c'est 2 fois 20 mètres que vous avez ici en rouge. Et même ici, ça je sens bien, comme on n'a pas le même nombre ici, enfin de fils, que c'est plutôt une antenne du style Windome, enfin alimentée aux deux tiers. Donc c'est pas complètement un doublé de demi-onde. C'est peut-être pas la bonne photo. Mais en tout cas, voilà comment ça doit être représenté. Et donc, ça fait pile poil, ici, une demi-longueur d'onde. Donc, rien qu'à avoir une antenne, vous allez savoir sur quelle fréquence elle va fonctionner. Alors, pour comment choisir son antenne? Ah bah alors là... Il y a plein de critères. Moi, mon critère de base, c'était de ne pas me fâcher avec ma femme. Donc, j'ai mis des antennes les moins visibles possibles. Voilà. Mais bon, après, chacun voit avec ses possibilités. Voilà, j'ai la chance d'habiter en pavillon. Tout le monde n'a pas ce bonheur. Donc, et puis même des fois, ceux qui sont en pavillon sont en copropriété. Et donc, ils ne peuvent pas faire sans être obligés de faire des démarches auprès du syndic et autres. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le doublet demi-onde, sa longueur, donc une demi-longueur d'onde. Évidemment, c'est deux quarts d'onde, en fait, hein, quand on veut analyser. C'est deux quarts d'onde, puisque ici, on a une demi-onde coupée en deux, ça fait bien un quart d'onde. Pour l'impédance, et c'est là que ça commence à compliquer, l'impédance, lorsque les deux fils ici sont bien alignés, lorsque l'antenne est bien tendue, l'impédance est que l'antenne est suffisamment éloignée du sol. Donc, quand on est sur le 80 mètres, normalement, éloigné du sol, ça commence à se compliquer, parce que l'éloignement du sol se mesure aussi en longueur d'onde. Donc, une antenne 80 mètres, si vous la mettez à 10 mètres du sol, ça fait un huitième de longueur d'onde, et le sol va avoir une influence très importante sur notamment l'impédance, mais pas que. Alors, il y a plein de questions. Pour le doublet de demi-onde, on le relie de tresse sur le brin et lame sur l'autre brin. Ouais, exactement. Concrètement, ici, j'alimente ici d'un côté lame et de l'autre côté la tresse. Alors, il y en a plein qui vont me dire, oui, il faut mettre un ballon, machin, etc. Oui, c'est mieux, mais ça marche aussi sans ballon. Voilà. Je l'ai utilisé, moi, pendant 10 ans, sans ballon, et j'ai jamais eu aucun problème, et c'était bien accordé. Le problème, c'est que, la plupart du temps, si vous avez c'est l'environnement, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, ici un bâtiment d'un côté, eh bien, votre antenne ne va plus être équilibrée, et donc vos deux dipôles, quarts d'onde, là, ne vont plus fonctionner exactement de la même manière, et donc, ici, il va y avoir un problème de désadaptation entre les deux. C'est tout. Mais on verra ça quand on fera la partie technique. Je sens que là, ce soir, vous allez en demander plus, mais voilà, je suis désolé, on va se limiter à ce qui est demandé à l'examen. Lorsque les deux brins là ne sont pas alignés, typiquement, vous pendez votre antenne à votre pylône, et donc de chaque côté, les brins rayonnants là qui sont en rouge, ils vont descendre. Si vous avez ici un angle de 120 degrés, eh bien l'impédance va diminuer et arriver à 52 ohms. Voilà. Et si vous descendez encore plus et que vous avez ici un angle droit, donc à 90 degrés, eh bien vous allez arriver ici à une impédance de 36 ohms. Voilà. Après, je vous recommande pas d'aller au-delà, parce que ce qui se passe, c'est que si vous avez vos deux brins qui suivent ici la ligne d'alimentation, et qui sont donc parallèles les uns aux autres, eh bien l'antenne, elle ne rayonne plus. Donc c'est un peu dommage. Plus vous réduisez ici l'écart, plus ici le rendement va être mauvais, et donc au bout d'un moment, vous n'avez plus rien à mettre. Alors là, G5RV, on ne l'abordera pas ici, parce que c'est une antenne trop compliquée. Voilà, donc... encore une fois, on est ici dans une partie de réglementation, hein, et même dans la partie technique, C'est une antenne qui est très compliquée à expliquer. Voilà. Donc, je ne l'expliquerai pas parce que j'ai moi-même du mal à comprendre comment elle fonctionne. Elle fonctionne très bien, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, tout au moins, pas aussi évident que ça. Alors, le rayonnement, on va le voir après au corps. Savoir si c'est horizontal ou vertical. Donc ça, c'est le doublet d'une onde. Encore une fois, c'est l'antenne de base. Donc c'est la première antenne qui a été mise au point. Et donc, c'est toujours celle qui sert de référence. Alors évidemment, l'impédance, ça va aussi, ça, les 73 ohms, c'est ce qu'on appelle en espace libre, c'est-à-dire loin de tous obstacles. Et quand on dit loin de tous obstacles, c'est-à-dire que l'obstacle le plus proche est à 3 longueurs d'onde. Donc, ça, en VHF sur 2 mètres, 3 longueurs d'onde, ça fait 6 mètres, ça va, on a de la place. Quand on commence à se trouver sur 20 mètres ou 40 mètres, 3 longueurs d'onde, ça commence à faire un peu beaucoup. Et donc, de ce fait, les 73 ohms, ben, j'ai un peu de mal à les maîtriser parce que j'ai toujours quelque chose dans l'environnement proche. Du moins proche par rapport à la longueur d'onde. Et généralement, plus je m'approche du sol, plus mon impédance diminue. Ça, c'est la règle générale. Après, il peut y avoir des effets de résonance ou autres qui font que l'impédance, au contraire, elle augmente. Mais la règle générale, c'est que plus on se rapproche d'un obstacle, plus l'obstacle il absorbe l'onde, et donc plus ça absorbe, plus ça diminue l'impédance. Le demi-onde replié, le doublet demi-onde replié, c'est ce qu'on appelle aussi le trombone. Ici, vous avez un joli trombone d'une antenne de télévision. Comment ça fonctionne? Elle fait aussi une demi-longueur d'onde, de long, sauf que le fil, ici, il y a un retour. Donc il revient, si bien que la longueur totale du fil, eh bien, elle fait une longueur d'onde, puisque c'est une demi-longueur d'onde fois 2. L'onde ici, elle va faire le tour, et elle va revenir ici, elle va revenir en phase. Rappelez-vous, ici, dans mon petit truc, ici, la longueur d'onde, ici, elle part là, la longueur d'onde, c'est toute cette longueur-là, et donc au bout de la longueur d'onde, elle revient à la même tête, je dirais. Et quand, ici, je vais utiliser cette antenne, lorsqu'elle aura fait tout son tour, là, à 300 000 km/s, elle va arriver ici, et elle va revenir en phase. Donc cette antenne particulière, elle ne mesure plus 73 ohms, mais elle mesure 300 ohms. Elle mesure 300 ohms, et donc, ce fil retour, là, qui est là, ici, il est quand même assez éloigné. Donc, je ne suis pas certain qu'elle fasse 300 ohms, parce que plus le fil de retour, là, est éloigné du dipôle de base, plus l'impédance diminue. Ici, donc là, je ne suis pas certain qu'elle fasse 300 ohms. Mais pour qu'elle fasse 300 ohms, il faudrait qu'elle soit le plus proche possible, ici, de ce fil-là. Le fil du retour doit être le plus proche possible pour que ça fasse bien les 300 ohms. Plus on s'en éloigne, par exemple, si on a la forme ici d'un carré, parce que si ça a forme d'un carré, donc un carré comme ça, là, hop, comme ça, toc, 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 un carré, donc une quad, dans ce cas-là, l'impédance est de 140 ohms. Dans une quad, le carré, il mesure un quart d'onde. Donc évidemment, l'onde, elle va faire le tour de la même manière, à la même vitesse, mais de ce fait, l'impédance, enfin, du fait les courants vont pas être au même endroit, et donc l'impédance ne sera pas la même, et elle sera aux alentours de 140 ohms. Et si vous avez une delta, c'est pareil, une delta, donc c'est avec trois côtés, un triangle, et donc dans ce cas-là, c'est aux alentours de 100 ohms. À peu près 100 ohms. Alors, j'imagine que c'est mieux une grande impédance. Pas du tout. L'impédance de l'antenne n'a strictement rien à voir avec son rendement, avec ses caractéristiques. C'est juste un problème après d'alimentation dont on verra la semaine prochaine des problèmes. L'alimentation, puisque ici, 300 ohms, pour bien faire, il faudrait l'alimenter par un émetteur de 300 ohms. Or, un émetteur de 300 ohms, vous allez avoir peut-être un peu de mal à en trouver. Donc, il va falloir trouver un système d'adaptation pour que mes 300 ohms soient bien alimentés. Voilà. Alors, l'impédance, c'est quoi? C'est le rapport de la tension divisé par l'intensité au point d'alimentation. Voilà ce que c'est tout. On n'en parlera pas plus pour le moment, on parlera plus de ça quand on fera la partie technique. Voilà. Donc c'est peut-être un peu vicieux ce que je vous fais de présenter des trucs mais vraiment très très limite, alors que je suis sûr que vous en avez plein. Vous en voulez d'autres. Et le rendement, c'est pas le gain. Le rendement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la puissance rayonnée par rapport à la puissance que l'on alimente l'antenne. C'est le rendement, c'est exactement pareil, c'est comme les rendements d'un émetteur. Donc vous pouvez avoir une antenne qui a du gain, mais un rendement mauvais, et donc du coup, tout ce qu'il y avait dans le gain est perdu dans le rendement. Voilà. Mais on parlera pas du rendement des antennes. En règle générale, toutes celles qu'on va voir là, elles ont un rendement pas trop mauvais, parce qu'elles sont des antennes simples. Et ce sont souvent les antennes compliquées, avec notamment des trappes et ce genre de choses, ou un système d'alimentation, d'adaptation, qui fait que le rendement est moins bon. Mais là, comme ce sont des antennes simples, le rendement est en général pas trop mauvais. Et puis vous avez aussi, encore une fois, les éléments parasites autour, le sol, la maison du voisin, des arbres, qui peuvent avoir une incidence sur le rendement de l'antenne. Troisième antenne, l'antenne carbone verticale, qu'on appelle aussi GP. GP, pourquoi? C'est que c'est le terme anglais qui veut dire plan de sol, ground plane. Pourquoi? Donc une antenne GP, là vous en avez une là par exemple, donc elle est souvent verticale. Alors il y en a certains qui peuvent la mettre horizontale. Pourquoi pas? Moi j'ai utilisé 140 ohms pour coupler deux antennes, ça va se compliquer. Hein. Je sens Patrick là qui sent. Si ça vous intéresse. Demain, donc, je fais un samedi technique et on va parler justement des antennes. Et là, vous allez voir, il y a des trucs assez improbables. Et moi-même, j'ai été assez surpris des résultats. Donc, si ça vous intéresse, vous venez demain sur le Discord. Je vous ai parlé un peu plus haut. C'est à 14h30. Je reviens sur mon antenne carbone verticale. C'est une antenne doublée de mi-onde, mais que j'ai mis de manière verticale. Ici, on voit bien une partie de mon brin rayonnant, ici, enfin, un des brins rayonnants. Le deuxième brin rayonnant, finalement, il a été supprimé Et on a mis ici ce qu'on appelle un plan de sol. Alors, soit on met carrément la plante en terre, alors, si possible dans un sol conducteur, et si le sol n'est pas conducteur, eh bien, c'est que il va falloir mettre enterrer des fils tout autour. Des fils. Alors, le Discord, je vais vous passer le lien. Donc, le Discord est là. Hop, là, je vous passe le lien du Discord pour demain. Voilà. Donc mon antenne GP, là, soit c'est un plan de sol, et donc c'est le sol de la terre. Et donc là, il vaut mieux avoir un sol bien conducteur, donc de la glaise bien humide, et éviter les terrains de caillasse, parce que là, sinon, ça marche moins bien. Et si c'est terrain caillasse, eh ben on met des radiants dans le sol, ou alors carrément on met des radiants à la base de l'antenne, puisque là mon antenne elle n'est pas fichée dans le sol, elle est en hauteur là, elle est en haut d'un petit mât, et donc là j'ai des radiants qui sont là, qui font office, ils font croire à l'antenne qu'elle est au niveau du sol, et que donc ce sol là il va faire comme une sorte de réflecteur, de miroir qui va réfléchir la partie ici rayonnante, et donc ce brin ici il est reconstitué par le plan de sol, parce que le plan de sol fait une il y a une le plan de sol ici permet de faire que le rayonnement de l'antenne juste d'un brin va fonctionner. Et donc évidemment, mon antenne ici, elle va faire un quart d'onde, puisque tout à l'heure dans mon doublet c'était 2 fois un quart d'onde. Hein. Donc elle va faire juste un quart d'onde, c'est vertical, et important, comme ici mon plan de sol, ici il est à 90 degrés par rapport à mes radiants, mon plan de sol, enfin, mon brin rayonnant est à 90 degrés par rapport à mes plans de sol, et bien l'impédance ici de mon quart d'onde sera de 36 ohms. Et si vous voulez obtenir du 50 ohms, et bien il suffit ici que vos radiants, ici, vous les mettiez à 120 degrés. On va retrouver les 120 degrés que l'on avait ici, ici, et 120 degrés que l'on avait ici. Donc on retrouve bien tout ce que l'on a vu avec le doublet demi-onde. Donc le doublet demi-onde et l'antenne quart d'onde verticale, c'est finalement la même antenne. Alors sur Discord demain c'est 14h30. Hein. Voilà. Voilà, donc aussi, donc la longueur c'est un quart d'onde. 36 ohms, c'est ici on a à 90 degrés, donc si on a un plan de sol ici bien plan. Et les radiants, si on n'a pas un plan de sol, mais si on a ici des radiants, et qu'on les positionne ici à 120 degrés, eh bien on va avoir une impédance de 120 ohms. Alors l'idéal c'est d'avoir au moins 3 radians, au moins. Généralement il y en a 3. Alors il y a des antennes où il y en a 1 ou 2, mais l'idéal c'est d'en avoir au moins 3. Ce que l'on peut aussi avoir, et ça fait partie des questions d'examen, c'est qu'on peut avoir ici un brin rayonnant plus court que le quart d'onde. Parce que, exemple, si vous faites une antenne à quart d'onde verticale sur le 80 mètres, ça fait quand même ici une antenne de 20 mètres de haut à construire. C'est un peu compliqué. Et en plus, au passage, ça peut servir de paratonnerre, ce qui est quand même pas génial. Voilà, donc vaut mieux pas trop jouer avec ça. Et donc on se dit, ça serait quand même pas mal qu'on puisse réduire la longueur de cette antenne. Donc on peut le faire. Dans ce cas-là, il faut insérer une bobine. Alors généralement, c'est à la base, mais idéalement, le mieux, c'est de la faire, de la placer le plus haut possible. Généralement, c'est au milieu. Moins bien, c'est à la base. Et idéalement, c'est au sommet. Alors après, au sommet, le problème, c'est que c'est le réglage, qui est très compliqué, parce que c'est très pointu. Problème de cette... Quand on fait ça, alors oui, on peut aussi, pour certaines antennes, où on va mettre une capacité terminale, c'est-à-dire qu'en haut, ça fait une sorte de chapeau. Ça fait une sorte de chapeau ou de radiant qui sont tout en haut. Et en fait, ça, c'est une qu'on appelle une capacité terminale, qui est donc au sommet de l'antenne, donc on met soit une bobine au milieu ou une capacité terminale en haut. Et ça va vous permettre de réduire la longueur de l'antenne. En revanche, vous allez réduire le rendement. Pas de chance. Et puis, vous allez sûrement aussi modifier légèrement l'impédance et donc les diagrammes de rayonnement. Voilà. L'impédance, lorsqu'on utilise un quart d'onde raccourci, généralement, elle a une impédance plus faible qu'à la résonance. Déjà 36 ohms, c'est faible. Si vous rajoutez une bobine, vous allez encore diminuer l'impédance. Voilà. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution, parce que du coup, vous allez avoir des problèmes d'adaptation d'impédance que l'on va voir sur la semaine prochaine. Alors, les polarisations, on va les voir après. Dernière antenne, c'est l'antenne Yagi. Ça, c'est le râteau de télévision. On appelle le râteau de télévision, qui est l'antenne classique. Alors, pourquoi Yagi? C'est que, alors, ça, c'est une très belle histoire. En fait, Yagi n'a rien inventé du tout. C'était un élève d'un prof japonais, mais qui ne parlait absolument pas anglais, Monsieur Ouda. Monsieur Ouda a développé des tas de théories sur les antennes directives, et il ne parlait pas anglais, donc il ne pouvait pas publier dans les revues scientifiques de l'époque, c'est dans les années 1920, et donc c'est son élève, Monsieur Yagi, qui a pris la plume et qui a écrit en anglais des articles et qui ont fait connaître les antennes directives. Et donc, en fait, ce qui est resté dans la tête des scientifiques de l'époque, c'était que c'était M. Yagi qui avait écrit, alors que c'est M. Ouda qui les a inventés. Voilà. Donc, M. Ouda, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris son dipôle, et puis, il a fait des, comme tout le monde, il a bricolé. Et il a remarqué que lorsque l'on mettait un élément plus court à une certaine distance de l'élément rayonnant, eh bien, on avait un effet directeur. Et de même, si on mettait un élément plus long à une certaine distance derrière l'élément rayonnant, eh bien, ça servait de réflecteur, donc ça permettait de diriger de focaliser la puissance dans une direction. Donc, dans une antenne Yagi, on a un élément rayonnant qui est généralement un dipôle ou un trombone, l'un ou l'autre, et on a des éléments plus courts devant, qu'on appelle des brins directeurs, et plus longs derrière, qu'on appelle des brins réflecteurs. Enfin, tout simplement. Et la distance ici, entre deux éléments, c'est grosso modo une demi-longueur d'onde, ou un quart de longueur d'onde selon le système. Il y a les deux. Et donc, plus, évidemment, plus on a des éléments parasites, plus le gain est important. De toute façon, ça, sinon, ça serait pas drôle. Évidemment, la distance ici entre chacun des éléments, ça joue un rôle important, et c'est ce qui va permettre de déterminer souvent l'impédance. Important, c'est que plus on met d'éléments parasites, et comme à chaque fois on a des parasites, eh bien à chaque fois on baisse l'impédance. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Si vous avez dans votre doublet, si vous avez un bâtiment qui est pas trop loin ou que l'antenne est proche du sol, eh bien les 73 ohms, vous ne les aurez jamais. Donc, l'impédance va diminuer. Va pas être divisé par 10, hein, on est bien d'accord, hein, mais ça va diminuer légèrement. Et souvent, ça peut se rapprocher des 50 ohms qui vont nous être bien agréables, puisque dans ce cas-là, on n'a plus besoin d'avoir un système d'adaptation de l'impédance de l'émetteur à l'impédance de l'antenne. Puisque tout ça, ça doit être sur la même impédance. Entre l'émetteur, le câble et l'antenne, tout ça doit avoir la même impédance, sinon il y a des problèmes d'adaptation. Ce sont les quatre antennes. Ce sont les quatre antennes qui sont alors au programme de l'examen sur lesquelles il y a des questions. On a parlé tout à l'heure de gain, donc revoilà le gain de l'antenne. Donc le gain de l'antenne se mesure dans la direction du rayonnement maximum. Un dipôle, quelque part, ça rayonne, mais pas partout uniformément. Ce qui rayonne à peu près uniformément, tout au moins autour d'elle, c'est l'antenne quart d'onde. En revanche, elle ne rayonne absolument rien en direction du ciel. Ça tombe bien, en règle générale, c'est pas ce qu'on veut. Mais, voilà. Il y a d'autres antennes qui sont justement faites pour envoyer la puissance vers le ciel, parce que c'est là où on veut, c'est ce qu'on veut recevoir. Hein. Si vous voulez recevoir la Station Spatiale Internationale, vous avez intérêt à ne pas utiliser une antenne verticale, parce que quand la Station Spatiale sera au-dessus de vous, vous n'entendrez plus du tout. Donc c'est très... C'est un peu con. Vous avez intérêt à avoir des antennes qui sont adaptées à ce que vous voulez recevoir. Voilà. Donc le gain d'une antenne, ça va déterminer finalement dans quelle direction elle envoie l'énergie. Soit, en règle générale, il y a un sens. Il y a un sens. Et généralement, quand il y a des gaggis, des antennes directives, c'est pour envoyer dans une direction, dans la direction où les éléments sont les plus courts. Le gain d'une antenne se mesure toujours en décibels. Hein, ça, c'est même les commerçants s'y mettent. Hein, ils s'y mettent depuis très longtemps, mais ils mesurent donc sur décibels. Et ils peuvent mesurer en décibels par rapport au doublet, qui existe, qui s'appelle donc l'antenne, elle va être mesurée en dB/d. Hein, c'est un petit indice là pour mesurer. Généralement, les dB, le D, il n'est pas au même niveau, il est juste en indice là pour dire je suis en dB par rapport au doublet. Ou alors par rapport à l'antenne isotropique. L'antenne isotropique, c'est une antenne qui n'existe pas. Elle n'existe que dans la tête des mathématiciens. C'est quoi? C'est un point qui rayonne de manière uniforme, comme une sphère. Donc en fait, ça rayonne de manière uniforme dans toutes les directions. Donc c'est un point, et vous avez autour du point le rayonnement qui est uniforme, comme un peu une sphère. Donc ça c'est typiquement là, ça c'est mon antenne isotropique, elle est là. Donc c'est le bleu qui est là. Elle rayonne de manière uniforme dans toutes les directions. Hein. On est bien d'accord, dans toutes les directions. Et ça c'est mon antenne doublet. Et mon antenne doublet, en fait, elle a un gain par rapport à l'antenne isotropique. Pourquoi ? C'est qu'il y a une partie ici de l'énergie qui n'est pas rayonnée. Alors, première chose déjà, la surface ici en bleu, c'est égal à la surface ici de mes deux petits cercles qui sont en fait le diagramme de rayonnement d'un doublet. D'accord ? Donc, j'ai une partie de l'énergie qui n'est pas émise en direction de... Là, ici, j'ai mon bras rayonnant, et donc l'antenne ne rayonne pas dans le prolongement des bras rayonnants. Elle ne rayonne rien du tout. Et donc, toute l'énergie qui est dans cette direction, dans mon antenne isotrope, elle va se retrouver ici, à l'extérieur. Et donc, ici, je vais avoir la surface, ici, de mon antenne isotropique, qui représente la puissance de mon antenne isotropique, répartie différemment sur mes deux cercles-là. Et donc la surface de mes deux cercles, ici, va correspondre à la surface, ici, de mon cercle, de mon antenne isotropique. Donc mon antenne doublet, elle a un gain, parce qu'elle a ici 64% de plus de puissance rayonnée dans cette direction-là. Et 64% de plus, ça donne 2,15 décibels. Donc, quand vous achetez une antenne, le fait de dire que le fabricant la mesure en dB ISO, eh bien, par rapport à une antenne qui n'existe pas, tout au moins par rapport à l'antenne doublet qui existe, eh bien, il vous rajoute, il vous met dans la vue déjà 2 dB. Voilà. Donc, alors, c'est pas parce que le fabricant est de mauvaise foi, c'est que surtout tous les techniciens, tous les professionnels vont utiliser comme référence non pas l'antenne doublée qui existe, mais l'antenne isotropique. Voilà. Et donc, ce gain aussi, ce mesure qui se mesure en décibels, ça permet aussi de mesurer le rapport de puissance. De la puissance émise vers l'arrière par rapport à la puissance émise vers l'avant. Donc ça donne le rapport avant-arrière. Mesurer le fait que l'antenne envoie bien la puissance dans la bonne direction. Parce qu'en règle générale, c'est plutôt vers l'arrière où on a le plus gros lobe de rayonnement parasite. On va voir le lobe de rayonnement juste après. Donc, bien avoir cette... ça fait 2,15 dB précisément. Bon, si vous le faites à la calculette, hein, c'est log, 10 log de 1,64. Mais c'est pas une arnaque, hein, c'est pas l'arnaque Alors oui, c'est comme les voitures où ils font ça en soufflerie, je suis d'accord. Mais il n'empêche que toute la partie professionnelle va utiliser le dB ISO. Et voilà, c'est une antenne qui n'existe pas. Donc la question, on va aller voir, quelle antenne ne peut pas utiliser un radioamateur, évidemment c'est l'antenne isotropique, puisqu'elle n'existe pas. Les diagrammes de rayonnement, les voilà. Donc votre antenne, notre antenne, alors, premièrement, toutes mes surfaces là que j'ai indiquées, là, donc cette surface ici, ou cette surface ici, ou les deux cercles là, ou la surface ici, en théorie, c'est la même surface. Hein, c'est le même le même nombre de centimètres carrés. Voilà. Et donc, soit quand on a des diagrammes de rayonnement, soit on regarde le rayonnement vertical, donc on se met de côté et on regarde dans quelle direction elle vise par rapport à l'horizon. Donc typiquement, là, mon antenne isotropique, elle émet dans toutes les directions, y compris vers le sol, ce qui n'est pas très intéressant. Bon, il y a peut-être un intérêt, je ne vois pas, mais voilà. Donc ça émet dans toutes les directions. Mon antenne verticale, elle va avoir tendance non pas à viser l'horizon, mais à être un peu comme ça, à tirer un peu en l'air. Pas beaucoup, mais quand même. Et Kuma qui dit une très bonne chose, que si tous les constructeurs donnent leur gain, le gain des antennes avec le même décibel, c'est bon. Ben oui, il a tout compris. Mais voilà. Donc tant mieux. Voilà. Donc mon antenne verticale, là, ne vise pas l'horizon. Tout au moins parce qu'ici, il y a un plan de sol. C'est-à-dire que si on est éloigné de tout, le plan de sol, là, il est à 90 degrés. Pour que le rayonnement ici se fasse plus vers l'horizon, il faut utiliser plutôt des radians ici à 120 degrés. Dans ce cas-là, on va diminuer, enfin réduire un peu cet angle ici et le ramener vers l'horizon. Voilà. Ici, ça c'est mon doublet. Lorsque je le regarde de côté, évidemment, je ne vois qu'un point puisque tous mes fils sont alignés. Donc je ne vois qu'un point. Et là, finalement, ce sont deux cercles de chaque côté. Alors, encore une fois, je suis loin de tout élément parasite, et notamment du sol. C'est-à-dire que plus je me rapproche du sol, plus l'antenne va avoir cette forme-là. Enfin, mon dipôle va avoir cette forme-là. Si, ici, la longueur d'onde entre mon antenne et le sol est inférieur à 3 longueurs d'onde. C'est grosso modo ces 3 longueurs d'onde pour faire ça. Si on est plus loin de 3 longueurs d'onde, on peut dire qu'on est en espace libre, et donc l'antenne elle va avoir ce diagramme de rayonnement. En revanche, plus je me rapproche du sol, et notamment du coup en décamétrique, eh bien plus l'antenne va avoir un diagramme de rayonnement qui a cette forme-là. Et si bien qu'à un moment, on ne sait plus trop si on a une verticale ou un dipôle. Parce qu'en fait, elles ont quasiment les mêmes caractéristiques en termes de diagramme de rayonnement. Pour mon antenne Yagi, donc là j'ai mes trois éléments, je suis une Yagi trois éléments, je ne suis pas riche, alors j'ai acheté qu'une Yagi trois éléments. Donc il y a un élément rayonnant, un seul, celui qui est en rouge. Les deux autres, là, c'est mon directeur et le directeur ici, le réflecteur ici. Et ici, j'ai mon sol. Et c'est mon sol qui va foutre le bordel. C'est-à-dire qu'en espace libre, elle aurait ici un joli diagramme de rayonnement bien régulier. Et donc, elle viserait l'horizon. Mais comme ici, j'ai mon sol, c'est le sol qui va faire que mon diagramme de rayonnement vise non plus l'horizon, mais un tout petit peu au-dessus. Et alors évidemment, toute l'astuce, après, ça sera de trouver l'endroit où ce lobe de rayonnement, là, est le moins déformé possible. Et là, ça se complique. Là, il faut faire de la simulation, des essais, etc. Et effectivement, Kuma07 dit, j'ai mis du temps à trouver la bonne hauteur, du coup, j'ai un mât rétractable. Oui, parce que du coup... Si vous avez différentes bandes utilisées avec votre antenne, vous êtes certain d'avoir différentes hauteurs. Voilà. Ou alors, il faut trouver un juste milieu. Pas évident. Voilà. Du point de vue horizontal, donc là maintenant, on se place comme si on regardait au-dessus de l'antenne. L'antenne isotropique, comme c'est une sphère, bah, ça ne change rien, elle est toujours, toujours la même forme. Alors, trois longueurs d'onde pour être libre, mais impossible pour un OM, même en pavillon, tout le monde ne peut pas avoir de pilote. De toute façon, même pour le 80 mètres, trois longueurs d'onde pour le 80 mètres, c'est tout simplement impossible. Ou alors, il faut avoir une construction pas possible. Mais plus on travaille sur des longueurs d'onde longues, plus le sol va avoir une influence importante sur la longueur d'onde. Ça, c'est certain. Et évidemment, plus on monte en fréquence, moins on a ces problèmes-là. Et c'est pour ça qu'on utilise de plus en plus des longueurs d'onde très, très élevées, parce que du coup, en plus, tous les problèmes liés aux parasites disparaissent, au rayonnement parasite. Et au lobe de rayonnement un petit peu parasite, ça va disparaître au fur et à mesure. Donc ça, c'est mon antenne isotropique. Mon antenne verticale, elle, quand je vais regarder d'au-dessus, elle est omnidirectionnelle. À peu près, si ici on a un plan de sol bien uniforme. Si le plan de sol n'est pas uniforme, notamment si vous avez mis des radiants, et que trois radiants, vous allez avoir ici quelque chose qui ne va pas être aussi régulier que là. Ça va avoir, alors, pas complètement patatoïde, il ne faut pas exagérer, mais ça ne sera pas aussi propre, aussi régulier, aussi rond que ce que ça vient. Il y aura un petit, ça sera un petit peu quelques lobes un peu déformés. Voilà. Mon antenne doublée d'au-dessus, elle a la même configuration que de côté. Hein, voyez, les deux cercles sont strictement égaux. Moralité, ici, quand je représente ça en forme de volume, puisque ici je suis en 2D, hein, si je représente ça ici en 3D, je vais avoir ici un tore, c'est comme un pneu de voiture. Ah, ça fait un tore ici. Ok. Donc ça, c'est pour mon doublet. Ici, la Yagi, donc ça, c'est au-dessus, avec mes trois éléments, donc le directeur plus court, le réflecteur plus long. Là, c'est exagéré, hein, parce que en règle générale, c'est 5% à peu près, l'ordre d'idée, c'est 5% de différence de longueur entre le, enfin, 5% de moins pour le directeur et 5% de plus pour le réflecteur. Là, c'est largement plus. C'est pour que vous voyez dans quel sens ça se fait. Et donc là, j'ai bien ici un lobe de rayonnement, un beau lobe de rayonnement vers l'avant. Alors, encore une fois, c'est exagéré, c'est une trois éléments. Donc, vous n'avez jamais aimé avoir un lobe de rayonnement aussi pointu vers l'avant avec une trois éléments. Voilà, juste là. Pour revenir au départ. Alors, les haubans peuvent servir de radiant. Oui, mais c'est pas facile, hein, parce que les haubans, du coup, ils doivent avoir une certaine longueur. Et donc là, ça se complique un petit peu. Je vous conseille pas de servir de haubans pour faire des radios. Je pense que c'est généralement les haubans, on les prend justement de matière non conductrice pour éviter ça justement. Voilà. Donc bon, après, peut tenter, pas sûr. Bimiyagi, donc vers l'avant, vous remarquez que le lobe arrière, qui est ici, c'est le lobe le plus important. Hein, il y a les lobes latéraux ici, de chaque côté, qui généralement sont plutôt aux alentours ici du brin rayonnant. Enfin, bon, là c'est ma représentation qui est peut-être pas géniale. Mais vous avez d'abord les lobes latéraux et le lobe arrière, et le lobe arrière c'est le plus important. Alors encore des questions. Les surfaces de rayonnement sont identiques à un instant T, il faut le comprendre ainsi. En fait, les surfaces de rayonnement, elles sont identiques, c'est-à-dire que toute la surface de rayonnement indique la puissance, comment la puissance est répartie dans le... oui, comment la puissance est répartie dans l'envoi d'ondes. Donc, c'est à l'instant T, oui. Les Yagi et la Yagi, les espaces entre directeur et réflecteur et rayonnant, comment on les calcule? Ah, en fait, on les calcule pas, on les... c'est du quart d'onde ou de la demi-onde, et c'est pas exactement quart d'onde et c'est pas exactement demi-onde. Donc, il faut faire des simulations et voilà. Il y a des logiciels de calcul qui sont faits pour ça. Alors, on y passe des temps après, du temps sur les logiciels de calcul, mais ça marche bien. Ça évite de faire des tubes, de faire des essais dans tous les sens sur le logiciel. Une fois qu'on a bien maîtrisé tout l'ensemble des paramètres, après on peut passer à la réalisation et généralement c'est pas trop éloigné. Alors, Kuma07, si vous venez demain sur le cours sur Discord, là, on va parler justement d'une antenne qu'un OM a réalisée et que j'ai essayé de comprendre comment elle marchait, comment on pouvait la rendre meilleure. Tout ça avec le logiciel, et après, il faudra qu'il essaye lui de son côté, voir si les calculs étaient bons. Voilà. Ça, c'est pour donner aussi une idée, c'est le rayonnement en volume. Généralement, c'est assez utilisé aussi par les constructeurs qui disent, mon antenne, voilà son diagramme de rayonnement en volume. Ça permet aussi de mieux fixer les grandeurs. Et donc la couleur, elle va dépendre de la puissance envoyée dans une direction. Donc là, on voit bien, la puissance, elle est maximum dans... Il y a une dégradation là. C'est peut-être un peu petit, mais il y a des graduations en je sais pas quoi. Mais voilà, on peut aussi. Et ça, c'est fait à partir de logiciels du style MMANA. Alors MMANA ne sait pas le faire en 3D, tout au moins pour la version. Alors si vous n'êtes pas là, c'est enregistré et ça sera mis sur notre chaîne YouTube pour le Discord de demain. Voilà, on continue. Puissance apparente rayonnée. Donc la puissance apparente rayonnée, c'est quoi? On en a déjà parlé quand on a fait la déclaration PNR, justement. C'est la puissance d'alimentation de l'antenne multipliée par le rapport arithmétique correspondant au gain de l'antenne. Donc en fait, c'est savoir c'est la puissance qu'il faudrait appliquer à un dipôle, PAR, puisque mon rapport est par rapport au doublet. Donc c'est quelle puissance je devrais appliquer à un dipôle bien dirigé, dans la bonne direction, dans la direction de mon correspondant, pour que mon correspondant ait la même impression, la même réception, la même puissance de réception que ce qu'il a actuellement. Donc finalement, la PAR, c'est j'ai concentré ma puissance dans une direction. Et donc, je mesure finalement cette puissance dans cette direction. Hein? Donc c'est comme si j'avais une puissance, si j'ai une antenne qui a du gain, en règle générale, c'est parce que j'ai une plus de puissance dans une direction, évidemment moins dans une autre, mais c'est pas à un moment faut choisir. Et donc j'émets dans une direction, et la PAR, donc c'est cette puissance qu'il faudrait utiliser dans un doublet pour que mon correspondant ait l'impression, qu'il n'y ait pas de différence entre la puissance que j'utilise moi et la puissance que j'aurais utilisée dans un simple dipôle. Voilà. Donc voilà à quoi cette définition de la PAR. Donc en fait, c'est la puissance dirigée dans une direction. Et quant à la PIRE, la puissance isotrope rayonnée équivalente, eh ben elle, elle ne prend pas le dipôle, le doublet, elle va prendre la puissance de, elle va prendre la référence de l'antenne isotropique. Et donc, c'est par rapport à la puissance que j'émettrai de manière uniforme tout autour de mon point, qui est donc mon antenne isotropique, et quelle est la puissance que je vais envoyer dans une direction privilégiée, celle de mon correspondant, et celle dans laquelle, évidemment, je vais avoir le rayonnement maximum de mon antenne. Donc on va avoir des calculs simples de PAR et de PIRE, qui vont être présentés dans le cours de la semaine prochaine. Pourquoi ? C'est que en plus, il va falloir tenir compte des pertes dans votre système d'alimentation, dans votre coaxial. Parce qu'évidemment, votre sortie d'émetteur, il n'est pas directement au cul de l'antenne. Vous avez un câble coaxial entre les deux, avec des pertes. Et donc, il faut prendre en compte les pertes que vous avez dans votre câble coaxial, pour calculer votre PAR ou votre PIR. Et c'est donc, encore une fois, cette PAR qui va être déclarée dans la déclaration PAR qu'on est obligé de faire quand on fait une demande d'indicatif et même après quand on change de matériel. L'angle d'ouverture, j'ai pas vu de question dessus, mais j'en parle quand même. Que c'est important, c'est un des paramètres importants dans les antennes, dans les Yagi. L'angle d'ouverture, c'est quoi ? C'est que donc vous avez une direction, je vais vous faire un zoom. Vous avez ici une puissance émise dans la direction la plus favorable. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? C'est, on va regarder en faisant tourner l'antenne, et pour avoir une atténuation ici de 3 décibels, donc la moitié de la puissance, 3 décibels, n'oubliez pas, c'est divisé par 2. Donc l'atténuation ici de 3 décibels, et regarder quel est l'angle avec lequel on a cette atténuation. Et donc là, dans mon cas, là ici, je mesure l'angle d'ouverture ici. Donc ici, je fais tourner légèrement mon antenne vers mon correspondant, jusqu'à temps que je mesure 3 décibels de moins, et puis après, je refais par tourner dans l'autre sens mon antenne, ici, 3 décibels de moins aussi, et donc je mesure ici l'angle, et ça c'est l'angle d'ouverture de l'antenne. On a donc le rapport avant-arrière, qui est donc la puissance émise vers l'arrière, enfin tout au moins la puissance émise vers l'avant, non, ici c'est bien ça, la puissance émise vers l'arrière divisée par la puissance émise vers l'avant, ça c'est le rapport avant-arrière, qui se calcule aussi en décibels. Et vous avez les atténuations ici des lobes latéraux, qu'on appelle les lobes latéraux, qui sont en règle générale plus petits que le lobe arrière. Et donc, encore une fois, ici, c'est des atténuations qui se mesurent ici en décibels. Décibels par rapport à la puissance émise dans la direction du rayonnement, la direction de l'antenne, quoi. Voilà ce que c'est que l'angle d'ouverture. Donc le rapport avant-arrière, on en a parlé. Polarisation. Donc selon la position du brin rayonnant, l'onde va être polarisée soit verticalement, soit horizontalement. C'est-à-dire qu'on va regarder le brin rayonnant, dans quelle direction il est. S'il est vertical, l'onde est dite polarisé verticalement, et s'il est horizontal, l'onde va être polarisée horizontalement. Alors, c'est assez basique. Donc ça, ici je suis en horizontal, et ici je suis en vertical. ici je suis aussi en horizontal. D'accord ? Donc, voilà comment ça marche. En fait, la polarisation, c'est la position de l'intensité dans l'antenne. Voilà, donc quand c'est des antennes simples comme ça, on sait à peu près. Quand c'est par exemple une quad, et ben là on sait plus trop, et donc il va falloir faire des calculs. Pourquoi ? C'est que l'intensité, elle est répartie tout le long de l'antenne, et donc il y a des parties qui sont verticales quand c'est dans une quad, et des parties qui sont horizontales. Et donc il va falloir calculer là où il y a le plus de courant, si c'est dans la partie verticale ou dans la partie horizontale. En plus, certaines antennes, elles sont alimentées de telle manière que l'onde, typiquement ce sont les antennes du style hélice, donc ça ressemble un petit peu à un tire-bouchon, l'antenne hélice, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, et donc celles-là, ce sont des polarisations dites circulaires, c'est-à-dire que l'onde, au moment où elle est générée, elle va tourner. Il faut savoir que en réception, lorsqu'on reçoit les ondes, en règle générale, elles n'ont pas la même polarisation que lorsqu'on les a émises, surtout en décamétrie. À partir du moment où elles se réfléchissent sur la ionosphère, les ondes, en règle générale, deviennent circulaires. Tout au moins changent de polarisation. Et donc, en réception, vous avez quelquefois... malgré que vous ayez une antenne verticale, et vous allez recevoir des ondes en polarisation horizontale et ça ne va pas poser de problème. Parce que vous avez le sol qui n'est pas loin. Et c'est ça qui permet, c'est le sol qui va permettre de faire que on peut recevoir dans toutes les polarisations quand on est en onde décamétrique. Il est un peu plus compliqué quand on est en VHF ou UHF. Et là, il faut bien rester dans la même polarisation parce que les ondes, par principe, ne sont pas réfléchies. Ou sur des bâtiments, ou c'est des trucs comme ça, mais c'est pas... Voilà. Donc, mais dites-vous bien que la polarisation, c'est la direction de votre brin rayonnant. Alors, une Swiss Quad, c'est exactement pareil. Une Swiss Quad, il y a des parties qui sont verticales et des parties qui sont horizontales. Après, faut la passer à l'analyseur, au logiciel de simulation, et là, vous saurez ce que c'est. Voilà. Couplage d'antenne. Il y a eu des questions, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a eu par le passé, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Alors, couplage d'antenne, c'est que vous avez deux antennes qui sont identiques et que finalement, lorsqu'elles sont assemblées, comme ici, très proches l'une de l'autre, alors quand on dit très proche, il y a aussi une distance à respecter, hein. Ça se fait pas n'importe comment. Ici, il doit y avoir une certaine distance, généralement c'est une demi-longueur d'onde. Et elles doivent être strictement identiques et avoir ici la même longueur de câble, la même longueur de câble pour les alimenter. Sinon, ça ne marchera pas. Ou alors, si on peut le faire aussi de manière intentionnée, c'est-à-dire faire un déphasage entre les deux antennes, et dans ce cas-là, avoir une différence, enfin, un autre espacement ici. Mais c'est... Voilà, à chaque fois, ce sont des règles bien précises. Et donc, pour... lorsque l'on couple idéalement deux antennes, en fait, ce que l'on fait, c'est que on double la puissance apparente rayonnée, c'est-à-dire qu'on double la concentration de la puissance. Ce qui veut dire que, en clair, le gain, on augmente de 3 dB. Puisqu'on double la puissance, on augmente de 3 dB. Alors, coupler trois antennes, on peut le faire aussi, ça c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut se faire, et donc dans ce cas-là, la PR est multipliée par 3, puisqu'on a 3 antennes. Et si on couple quatre antennes, ça complexifie encore le système d'alimentation ici, parce que du coup, il en faut quatre. Voilà, il y a peut-être des règles à respecter pour que les antennes, une distance entre les antennes, donc ça c'est à régler au cas par cas, et là il y a plein d'articles sur internet, là vous en avez autant que vous en voulez. Et donc là, si vous avez deux antennes identiques, eh bien au mieux vous allez avoir un gain, la puissance, la PR est multipliée par 4, comme l'a fait IRE d'ailleurs, hein, PR, PR, bas dans ce cas-là, et donc ça donne un gain de 6 décibels, et c'est le gain maximum, parce que c'est des antennes couplées idéalement. Dans la pratique, si on arrive à 2,5 décibels pour les deux antennes, on est très content. Pourquoi ? C'est que souvent, ici, on n'a pas exactement les... Enfin, par exemple, si on parle de distance, autant ici, on a bien la même distance parce qu'il y a le support, autant au bout, ici, et notamment quand les antennes se sont pris 2-3 tempêtes, et ben ici, vous n'avez plus la même distance. Et du coup... Eh bien, vous perdez dans le couplage des antennes. Voilà. Donc, pas trop de questions, tout au moins, c'est des questions qui sont très anciennes, donc on reviendra pas dessus. Répartition, tension, intensité. Très rapidement. Tension, intensité. Donc, l'intensité, elle est en rouge. Donc, ici, il y a. Donc, ça, c'est un doublet. D'accord ? Dans le doublet, l'intensité, il n'y en a pas. Enfin, tout au moins elle est nulle aux extrémités, et la tension elle est maximum aux extrémités. Au centre, l'intensité elle est maximum, et la tension, alors sans être nulle, elle est minimum. Alors que l'intensité au bout là, elle est vraiment nulle. Voilà. En théorie, il ne devrait pas y avoir de questions dans la partie... dans l'épreuve de réglementation, puisque ça fait partie de l'épreuve de technique. Mais il y a quand même eu des questions. Qu'est-ce que des multidoublets et des antennes à trappe ? Alors ça, c'est un multidoublet. Vous voyez que sur le même, ici, isolateur, là, auquel on raccroche ici le câble coaxial, on a plusieurs doublets, donc, je vais lui faire un petit zoom. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous avez 2 fois 20 mètres, ici pour la bande des 40 mètres. Ici, vous avez 2 fois 10 mètres pour la bande des 20 mètres. Et ici, 2 fois 5 mètres pour la 2 fois 10 mètres pour la bande des 40 mètres. Et 2 fois 5 mètres ici pour la bande des 20 mètres. Voilà. Évidemment, ici, avec des isolateurs, enfin, isolateurs et ici de la drisse, donc un système non conducteur, de la ficelle, en clair, non conducteur, pour que ce ne soit pas que ça ne rayonne pas, quoi. Donc ça c'est un multidipôle et une antenne à trappe, alors j'en ai pas mis ici, une antenne à trappe c'est un système qui bloque en fait une fréquence. Qui bloque une fréquence, on verra ça quand on fera la partie technique, c'est un circuit bouchon tout simplement. Ça bloque une fréquence et donc et ça bloque la fréquence sur laquelle on veut que l'antenne s'arrête en fait. Et dès qu'on s'éloigne de cette fréquence de blocage de la trappe, eh bien l'onde continue et va jusqu'à la deuxième, soit la deuxième trappe ou au bout de l'antenne. Voilà. Donc ça c'est un multidoublet, antenne à trappe j'en ai pas, il n'y a plus assez de place. Voilà, mais bon, j'ai pas vu de questions récemment, donc j'ai pas trop insisté. En revanche, quelques questions sur les paraboles. Alors quand on parle d'une parabole, la parabole n'est pas à proprement parler une antenne. Ce qui est l'antenne, bas, voilà. Donc une parabole tout le monde connaît, hein, c'est une espèce de casserole. le couvercle de casserole, avec devant le foyer. Concrètement, comment ça marche? Ici, on a la parabole. Ici, on a le foyer. Et celle-là, donc c'est le foyer ou la source. Enfin, le foyer, c'est là où se trouve la source, exactement. Et la source, c'est ça. Et c'est dans la source qu'il y a l'antenne. La parabole, c'est juste un réflecteur. C'est-à-dire que les ondes, elles arrivent sur la parabole et elles sont réfléchies ici sur sur la source. Hein? Voilà. Et donc, en fait, tout le but, ça va être... Alors là, c'est une parabole satellite, mais souvent, les radioamateurs vont avoir la source ici, au milieu de... Enfin, devant la parabole. Parce que là, c'est pour les antennes satellites, ça permet comme ça d'avoir un champ ici, d'optimiser la surface ici de du réflecteur et pas mettre quelque chose devant qui va masquer une partie de du réflecteur. Voilà ce que l'on peut dire. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, il y a aussi la distance entre. Alors, idéalement, il faudrait, pour calculer la focale, être positionné juste devant la parabole. Et donc, la focale, c'est la distance entre la source, ici, le foyer, et la parabole. Ça, c'est la focale. Quand elle est déplacée comme ça, la distance focale, c'est un peu plus compliqué à calculer. Et donc le rapport de la distance focale et du diamètre de la paramètre, de la parabole, c'est ce qui va déterminer la forme de la parabole. C'est-à-dire que plus on a un rapport focal divisé par diamètre important, plus on va avoir un angle d'illumination ici important. C'est-à-dire qu'en fait, les ondes vont arriver de plusieurs endroits à la fois. Et de ce fait, on va avoir ici la forme de la parabole qui va changer. C'est-à-dire qu'au début, elle va être toute plate. Et puis après, au fur et à mesure, elle va se creuser un petit peu comme un bol. Et la plupart du temps, les paraboles qu'on a actuellement, elles ont une distance focale d'à peu près 1 mètre. Tout au moins pour des paraboles qui ont 60 cm de diamètre. Voilà. C'est tout ce que l'on a à savoir sur... Alors, impédance pour les antennes multidipôles, en fait, c'est la même impédance qu'un dipôle. Donc, alors évidemment, là, si elles ne sont pas complètement alignées, donc vous n'allez pas avoir de 73 ohms, mais vous allez être pas loin. Et vous allez avoir autant de fréquences de résonance qu'il y a ici de dipôle. Alors ça, pour votre information, j'ai utilisé ça pendant 10 ans chez moi et ça marchait très bien. J'avais en tout, donc ça fonctionnait sur le 20 mètres, le 15 mètres et le 10 mètres, sur 3 bandes. Alors c'est un peu compliqué à mettre au point parce que c'est pas exactement lambda sur 2. Évidemment, ça serait trop simple. Mais voilà, avec une bonne tenaille, on y arrive. Alors l'idée aussi, c'est de pas couper trop d'un coup, parce que sinon, après, on est obligé de foutre des dominos pour rallonger l'antenne, c'est pas très bien. Voilà. C'est du vécu. Les questions d'examen, donc d'abord sur les décibels, des questions bêtes et méchantes comme ça, rapport de puissance correspondant à un gain de 6 décibels, est-ce que c'est 4, 2, 8 ou 12? Évidemment, c'est 4. Quelle est la puissance en sortie d'un émetteur de 25 watts suivi d'un amplificateur de 20 dB? 20 dB, c'est donc multiplié par 100. Donc 25 fois 100, 2500. Voilà. Quelle est la PAR? Donc là, on commence à parler un peu de PAR. sans ici parler de l'atténuation qu'on a ici dans le câble, on va dire que le câble n'a pas de perte. J'ai un émetteur qui fait 40 watts, une antenne ici qui fait 3 dB, donc qui multiplie la puissance par 2. Ma puissance, ma PAR, devient 80 watts. Vous remarquerez, il y a 43 watts pour l'émission et 120 watts pour la multiplication des 40 watts fois 3. Et là, on est bien en décibels, donc il faut bien traduire ça par un rapport. Et donc, le rapport correspond à 3 dB, c'est fois 2. Et voilà. Puissance de sortie, donc j'ai 20 watts en entrée, un amplificateur qui fait 20 dB, quelle est la puissance de sortie? Donc 20 dB correspond à multiplier par 100, donc 20 multiplié par 100, ça fait 2000 watts. Vous remarquez qu'il y a 400, pour ceux qui auraient oublié de transformer les décibels en rapport de puissance. Les réponses, voilà, normalement il n'y a pas besoin de calculette, mais enfin bon, au cas où. Les gammes d'ondes, alors là vous en avez quand même un certain nombre, donc voilà, encore un petit tableau à prendre, malheureusement. Symbole des ondes myriamétriques, oui j'ai oublié d'en parler de ça. Vous avez dû voir les adjectif qualificatif de longueur. Voilà. Donc ici millimètre, ok, millimétrique, centimétrique, décimétrique à ne pas confondre avec décamétrique. Un décimètre, un double décimètre, c'est la règle qui fait 20 cm. Un décamètre, c'est une chaîne d'arpenteur. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc le métrique. Décamétrique, hectométrique, donc c'est 100 mètres, kilométrique, voilà, quand même tout le monde sait, c'est un kilomètre, donc c'est 1000, et alors là, le myriamètre, alors là tout le monde a découvert ça, le myriamètre c'est une ancienne mesure du temps de la Révolution française, c'est ce qui a remplacé par un moment une lieue. Alors, pour savoir ce que c'est qu'une lieue, c'est la distance que vous parcourez à cheval pendant une heure. Voilà. Et donc, une lieue selon la province, ça faisait entre 6 et 8 km. Et à la Révolution française, comme on voulait supprimer tous ces anciens systèmes de mesure, on a inventé le myriamètre, qui est donc le préfixe multiplicateur pour 10 000. Voilà. Donc ça, c'est petite histoire. J'avais oublié de le préciser quand on avait fait les gammes d'ondes. Je reviens à mes questions d'examen. Hop, voilà, donc mon myriamétrique, vous avez peut-être dû regarder du coup, ce sont les VLF. Puisque UHF, VHF et SHF, ce sont des ondes qui sont très... dont la longueur d'onde est très courte ou dont la fréquence est très élevée. Étendue des ondes décimétriques. Donc décimétriques, ça commence à un décimètre. Et donc le décimètre, il est voilà, 0,3 à 3 gigas. En fait, il faudrait traduire un décimètre. En fait, on fait 300 divisé par 0,1, donc le décimètre. Et donc, ça va me donner 3 gigas. Donc, il va de 1 décimètre à 10 décimètres, donc à 1 mètre. Et 1 mètre, c'est 300 mégas. Donc, 0,3 gigas. Voilà. C'est pas aussi évident que ça, mais une fois qu'on a les rapports de grandeur, ça va un peu plus, un peu mieux. Et enfin, longueur d'onde des ondes décimétriques, donc ça commence à un décimètre et ça finit à un mètre. Donc le piège ici, c'est qu'on vous donne ici 10 cm à 1 cm. En fait, c'est l'inverse qu'il faudrait réfléchir. On donne toujours la plus petite des valeurs, enfin en français tout au moins. Quand on vous a dit ça va de 10 cm à 1 mètre, on commence par le plus petit et on finit par le plus grand. Là, ils ont fait l'inverse. Donc, histoire de vous perturber un petit peu, c'est limite du français, c'est pour ça que j'appelle ça moi une question tordue. Voilà. Et donc, il y a de nombreuses questions. Voilà. Faut s'y attendre. Sur les antennes, quelle est l'impédance du doublet de Lyonde par rapport à un doublet classique? Donc, je rappelle, le doublet de Lyonde replié, ça fait 300 ohms, et le doublet classique, ça fait 73 ohms. Donc, c'est grosso modo 4 fois plus. On va dire 4 fois plus. Et non, et donc c'est le cadre. Quelle antenne ne peut utiliser un radioamateur? Là voilà ma fameuse question. Et c'est évidemment l'antenne isotropique, ou isotrope. Puisqu'elle existe que dans la tête des techniciens. Quelle est l'affirmation vraie sur une antenne Yagi? Le fait d'ajouter des éléments diminue l'impédance, le rayonnement est parallèle au dipôle, l'élément directeur est plus long que le brin rayonnant, tous les éléments sont des brins rayonnants. Alors, la dernière, non, puisqu'il n'y a qu'un seul brin rayonnant, les autres sont des éléments parasites. L'élément directeur est plus long que le brin rayonnant, non, il est plus court, c'est l'élément réflecteur qui est plus long. Le rayonnement est parallèle au dipôle, non, il est perpendiculaire au dipôle. Et donc, il n'y a plus que le fait d'ajouter des éléments diminue l'impédance. Voilà. À quelle antenne correspond ce diagramme de rayonnement? Donc, ce diagramme de rayonnement, c'est le doublet de Lyonde. Et c'est d'ailleurs aussi le doublet de Lyonde replié. C'est le même diagramme de rayonnement. En revanche, c'est l'impédance qui est différente. Unité de rapport avant-arrière d'une antenne. Volt, décibel, mètre ou hertz. Évidemment, c'est décibel. Polarisation d'une antenne JP, donc ça c'est le carbone vertical, et comme il est vertical, et bien c'est une antenne verticale. Elle est omnidirectionnelle aussi, mais ce n'est pas une histoire de polarisation, c'est une histoire de diagramme de rayonnement. C'est pas la même chose. Voilà. Encore les antennes. Impédance d'un dipôle plié à 90 degrés. Et il n'y avait pas d'image comme je l'ai fait ici. Donc voilà, quand c'est replié à 90 degrés, c'est 36 ohms. Et quelques questions hors programme. Au centre d'un doublet de Lyonde, les valeurs U et I sont. Donc U égale 0, Umax, Umax et Umini, Umini, Umax et Umaxi et I égale 0. Donc au centre, on a l'intensité maximum et la tension minimum. Donc c'est pas la tension égale à 0, c'est la tension minimum et l'intensité maximum. C'est cette réponse-là et pas celle-là. Quel est le gain d'une antenne 5/8e? On n'en a pas parlé de 5/8e, vous remarquerez. C'est une antenne c'est une antenne verticale avec un système d'alimentation un peu particulier et qui a les caractéristiques de faire 5/8e de longueur d'onde. Donc elle est un peu plus longue qu'une demi-onde. Et du coup, elle a un gain. Et donc, le gain, est-ce qu'il est inférieur à l'antenne carbone verticale? Est-ce qu'il est supérieur au gain de l'antenne JP? identique au quart d'onde verticale dont les radians sont à 120 degrés, où cette antenne n'existe pas, elle est supérieure à l'antenne JP classique. Voilà, donc ça c'est, pour moi c'est une question au programme, parce que la 5/8 n'est pas au programme de l'examen. On en arrive à la fin, et je vous souhaite donc à tous un très bon week-end, à la semaine prochaine, et bonne continuation dans le confinement. Bye bye.